around, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you.
Salut les DC amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de The DC Alternative, le podcast où on analyse tous les films de super-héros du monde.
Oui, c'est ça, c'est le but.
Avec moi cette semaine, comme d'habitude, on a Z pour Zoltan,
c'est ça,
qui est là, et Jessica, qui nous rejoint. Maxime n'est pas là, hélas. Donc Jessica, toi tu t'y connais un peu en Alan Moore, donc c'est aussi pour ça que tu es là.
Moi j'aime surtout lire.
T'aimes surtout lire en général ?
Oui.
Donc t'aimes surtout lire ? Ouais, c'est comme parler... nous, on aime surtout le cinéma, mais on se retrouve à parler des films de super-héros parce que on s'est dit,
idée, hein.
C'est bankable.
C'est ça, ouais, c'est ce que tu
on va se
dit,
faire
ouais.
Plein d'argent, plein de cash.
Ouais. Depuis, d'ailleurs, j'ai vu ta baignoire, elle est remplie de billets verts.
Ouais,
comme Picsou.
Dedans, c'est trop bien. ça fait un bail qu'on s'est pas vu en vrai.
C'est vrai que ça fait.
Parce qu'on a fait, combien d'épisodes là
Finalement, pas tant que ça, 4.
4, 5, non
4, ouais. On a fait que des bons films.
On a fait que des bons films. Là, ça va, on remonte un peu le niveau.
Oui, quand même. Mais bon, on en parlera. C'est un film que je trouve un peu frustrant au final. Mais
Parlons de la BD, parce que. Bon, on va parler de V pour Vendetta, je l'ai dit au moins.
Non.
Il date de quand ? J'ai oublié de le
2005
dire. Ouais, 2005-2006.
Ça, c'est à vue de nez, parce que c'est, je m'en rappelle.
Le film 2005 et la BD, elle a fini en 88.
Ouais.
Parce que c'était une série, donc ça commence en 1980. Et le dernier épisode en 88.
Moi, j'ai 82 et 85.
Pour la BD, pour le roman graphique.
Ouais.
Moi, j'ai pas fait de recherche.
Ouais. ce qui est important, le fait que ce soit dans les années 80, parce que c'est en plein thatcherisme. Donc Margaret Thatcher, la Dame de Fer, je vous conseille de faire des recherches sur elle si vous voulez, parce que je me sens pas de me lancer là.
Moi, j'attends la saison 4 de The Crown pour en apprendre plus.
Elle est dedans ?
Bah, elle est pas dans la 3. Je pensais qu'elle le serait. Oui, je pense qu'elle sera dans la 4.
Non, la 3, elle était encore.
Années 70, ouais. Donc,
ouais, non, elle était pas encore là.
Bah, non, ouais. C'est pour ça. Donc, j'ai hâte.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la BD ?
Bah, moi, je l'avais pas lu avant de découvrir le film. Donc, j'ai découvert le film comme ça, vierge de toute connaissance sur le truc. J'avais vraiment aimé le film à l'époque. Parce que, je l'ai vu ado et c'est vrai qu'il y a quand même ce petit délire contestataire. Qui parle, et ça reste une imagerie marquante. C'est un film qui est quand même bien fait. Et on m'a conseillé vivement de lire la BD après. Et après avoir lu la BD, en fait, j'avais trouvé que l'adaptation était quand même assez fidèle et plutôt maligne, quoi. Parce qu'elle arrive à réduire énormément de choses pour faire un film qui reste digeste. Parce que la BD, il y a plein de trucs qui sautent, évidemment. Mais moi, elle me pose un peu de problème, la BD. Je la trouve pas forcément. Je trouve qu'il y a des vraies longueurs par moment. Il y a vraiment des chapitres entiers où j'ai du mal à être vraiment investi par ce qui est raconté. Quoi.
Moi, j'ai découvert le film et la BD assez récemment, dans les 5 dernières années. J'ai découvert d'abord le film avec Zoltan, et ensuite j'ai lu la BD, et c'est quand j'ai lu cette BD qu'après j'ai lu toutes les autres BD d'Alan Moore. Pareil, hein, j'ai trouvé que le film était vraiment génial, ça te met vraiment une claque, et c'est une belle peinture d'un mouvement anarchiste, mais c'est sûr que quand tu lis la BD après, tu fais « oui, ça a été très simplifié, en fait, extrêmement vulgarisé.
» Et américanisé.
Le film ?
Ouais, je trouve.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout le contexte, on va dire Grande-Bretagne, c'est toujours en Grande-Bretagne tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce... Bah, en fait, c'est la dystopie est vraiment amoindrie, le fascisme est hyper simplifié, c'est beaucoup plus grossier, quoi, le film.
Ouais, et les Wachowski avaient déclaré, enfin, pas vraiment, je pense pas qu'elles aient déclaré quoi que ce soit, vu qu'en interview, on les a très rarement, donc je pense que c'est plus... On a appris qu'ils avaient fait des rewrites, réécrire un peu le scénario pour s'adapter plus à l'après 11 septembre et au gouvernement Bush.
Ouais.
Donc c'était vraiment plus.
Après la BD, comme tu l'as dit, elle date des années 80. Mm-hmm. Et dans les années 80, t'as un autre roman qui est une très forte dystopie, c'est La Servante Écarlate de Margaret Atwood.
Ah, c'est les années 80 ça ?
C'est 1985. Mm-hmm. Et du coup, c'est aussi une critique de la société contemporaine, future, qui peut tomber dans une forme de totalitarisme. On retrouve vraiment les mêmes thématiques.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Bah là, pour le coup, revoir le film aujourd'hui, c'est quand même assez troublant parce que c'est vrai que le parallèle avec les événements qui conduisent au fascisme dans le film, Je suis pas sûr que dans la BD c'est moins présent, mais là c'est vraiment il y a un virus, il y a pour réussir à lutter contre ce virus. Voilà, ça il y a pas.
Dans la BD il y a pas. D'ailleurs même elle a pas de frère. Ça c'est un truc qui est rajouté dans le film. Dans le film c'est ses parents deviennent activistes parce que le frère meurt d'une maladie qui a été créée par l'État. Et eux, ils veulent le démontrer, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent enfermés. Alors que dans la BD, elle est fille unique.
Et dans la BD, en gros, il y a eu une guerre entre les États-Unis et la Russie, où ils se sont balancés des bombes nucléaires à la gueule. Donc,
ils ont supprimé l'Europe et l'Afrique.
Voilà. L'Amérique a fait une sorte de deuxième guerre civile avec l'Angleterre aussi. Et en fait, non, c'est juste que les fascistes sont montés au pouvoir naturellement.
Ouais, suite à la guerre, quoi.
Ouais, voilà, comme on a des Marine Le Pen qui montent. Ouais. On a des,
non, alors que c'est vrai que dans Trump, le film... mais dans le film, il y a plus ce rapport où... Et en plus, c'est encore plus... Bon, non, on va en parler parce que c'est tout le plot qui s'éclaircit au fur et à mesure du film. Mais c'est vraiment des mécanismes où tu vois comment tu as peur une population pour réussir... lui faire accepter le fait d'être surveillé. Comme tu disais, post 11 septembre, il y a beaucoup de théories. C'est ce qui a un peu infusé le cinéma et ça ressemble un peu au Dark Knight sur cette réflexion, par exemple.
Ça ressemble à la théorie du complot qui dit que Bush a fait le 11 septembre.
Ouais, non, c'est ça. Exactement.
Ça ressemble à comment ça s'appelle, le Patriot Act.
Ouais.
Où donc tu pouvais être écouté. Ils peuvent écouter n'importe qui, n'importe quand ils le veulent. Donc c'était vraiment plus en réponse à ça, plus qu'à Margaret Thatcher, parce que bon, les Wachowski sont pas forcément...
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de revoir le film, tu fais genre, ça, avec le virus, les violences policières, le côté un peu fascisant de notre politique et tout, tu fais oui, c'est...
Non, mais juste les derniers mois.
Voilà, c'est ça.
On a encapsulé un peu tout... Tout VFV pour Vendetta.
Exactement, ouais, c'est assez troublant.
Il n'y a juste pas de monuments qui ont pété. Ah si, il y a Notre-Dame qui a pris feu il n'y a pas très longtemps.
Mais c'est alors, ça aurait été tellement beau que ce soit, que ce soit fait exprès.
Après, la période qu'on vit, tu peux facilement remettre pas mal de films. Genre, on a vu aussi L'Armée des Douze Singes récemment.
Ouais.
Et genre, tu fais ah, il y a une pandémie qui fait qu'on vit tous sous terre. Pour sortir, il faut avoir une combinaison, un masque et tout, parce que tu ne peux pas respirer. Enfin.
Je me disais qu'il devait pas avoir super vieilli ce film.
Si ça va, mais c'est vrai qu'après c'est pas, enfin l'étude de tout ce qui est le virus, tout ça, c'est pas le cœur du film en fait.
Ouais, c'est mis sous le tapis. Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Un truc qui saute aux yeux par rapport, si on compare la BD au film, c'est que ça parle presque pas de race.
Ouais. Alors que la BD,
c'est des vrais fachos à l'ancienne, hein, qui parlent de race pure, ouais. Mais par contre, ils n'aiment pas les Irlandais, par exemple. Il y a un gros truc là-dessus sur la façon dont les Irlandais sont traités. Là, il y a juste une phrase qui est balancée comme ça aux flics. Ta mère était pas irlandaise ou un truc comme ça, je crois.
Oui.
Mais sinon, c'est tout vraiment de. Ouais.
Bah, il y a beaucoup. Pour le coup, ils augmentent plus sur l'homosexualité,
ouais.
qui est présent déjà dans la BD. Mais là, ils en rajoutent une couche avec vraiment un personnage qui est pas dans la BD. Qui est homosexuel et qui doit se cacher.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, ils ont plus orienté là-dessus. Et connaissant les Wachowski, c'est logique que ce soit peut-être aussi un peu leur sensibilité que les races. Quoi. Et c'est vrai que les races, y a peut-être aussi, je sais pas, c'est peut-être.
Quand je dis
bizarre,
la race, je veux dire le racisme en
français.
Oui, c'est
ça.
On dit pas race, c'est vrai.
Oui. Non, mais c'est vrai que c'est tout. Au moins
c'est
le.
Parce que je voulais dire race, en fait.
Enfin, c'est vrai que l'homophobie, c'est peut-être un peu plus. Ouais, c'est une manière. Ça les concerne plus, de toute façon, de base. Donc voilà.
Bah, de toute façon, les autoritarismes, c'est tous les gens qui sont entre guillemets pas dans la norme. Mmh. Et donc, du coup, la BD se permet de parler de tout ce qui est pas dans la norme, alors que ça va dans le mouvement de simplification. Tu simplifies, tu prends un seul. Ils n'ont pas pris les communistes, ils n'ont pas pris les juifs, ou ils se sont dit, on va faire que les homosexuels. Mais en fait, d'ailleurs, quand on voit des souvenirs de l'Arc Hill, on voit qu'il y a des gens très différents. Enfin. Il y a justement y a Valérie, qui est donc une femme homosexuelle, mais tu as aussi des Noirs, des Asiatiques et tout. Tu les vois très peu, mais tu les vois quand même.
Mmh.
Et ça ressemble vraiment à un camp de concentration nazi.
Oui, totalement.
Ah oui.
Là, de toute façon, le parallèle avec le nazisme, il est...
Ah oui, il y a les... Rien que le signe...
UN, enfin... NU...
Non, mais le logo
l'espèce
dans
de
le
croix
film,
gammée,
c'est une croix catholique avec un autre trait au-dessus.
Ah oui, c'est ça, oui.
Une croix de Lorraine.
Ouais, c'est pas vraiment une croix de Lorraine.
Ouais, c'est pas exactement.
Ça ressemble à une sorte de variation de la croix de Lorraine. Ouais,
oui, c'est vrai. Ça. C'est l'insigne des flics et tout. Ouais.
La BD, c'est clairement anarchie contre fascisme. Il y a pas. Alors que par moments, quand on regarde le film, c'est un peu plus néolibéralisme contre, je sais pas, autoritarisme. Enfin, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment. L'anarchie est pas vraiment là quand je vois le film. Je trouve qu'ils ont fait de V un personnage bien plus romantique dans la dans le film.
Ouais, bah même le discours qu'il donne à la télé, par exemple, ça a rien à voir. Ouais. Moi, je veux dire.
Puis même dans sa façon d'être, et il dit clairement, je crois, un moment dans la BD que tuer des innocents, il s'en fout.
Ouais.
Le plus important, c'est d'aller au but. Alors que dans le film, ils font clairement genre non, il tue pas des innocents, il fait attention à ça. Alors que dans la BD, c'est vraiment un anarchiste pur et dur. Il veut vraiment foutre la merde, en fait.
Même, pour le coup, moi, je trouve que c'est vraiment un personnage anarchiste dans le film aussi. Mais c'est un anarchisme de Bisounours.
Ouais,
c'est
ouais.
juste que c'est un anarchisme à l'hollywoodienne.
Ouais, voilà.
Mais c'est un vrai personnage anarchiste. Enfin, tu retrouves les grosses thématiques. Tu retrouves le grand soir. Tu retrouves le côté souterrain. Enfin, tu vois. Enfin, d'ailleurs, la définition de l'anarchisme, je l'ai noté, c'est une philosophie politique anti-autoritaire. Qui a un refus de toute contrainte, et c'est ce qui
souvent
défend.
Anti-gouvernement en général aussi.
C'est pas
comme libertarien encore, mais c'est.
Bah, libertarien, c'est une sous
ouais, voilà,
une sous catégorie. Donc.
Mais je trouve que le moment qui m'a le plus marqué justement dans l'amoindrissement de son côté un peu extrémiste, c'est le discours qu'il y fait. Il y en a un où il donne de l'espoir aux habitants, où il dit mais réveillez-vous, enfin voilà, c'est pas vraiment de votre faute. Enfin, il y a un côté très. Enfin oui, et l'autre il les engueule, il les insulte, enfin il les fait, il leur dit, enfin limite, vous avez été des lâches.
Mais oui, c'est ça en fait. Il a plus et d'ailleurs, mais le peuple en général est beaucoup moins sympa que dans le film. On voit que dans le film, le peuple en général est vraiment, il y a même pas un seul exemple c'est vraiment tous les gens qui bossent pour le gouvernement, à part le gentil flic. C'est tous des méchants à 100%, alors que dans la BD ils vont quand même te montrer leur vie de tous les jours avec leurs femmes et enfants et tout, et tu te dis
ouais.
Et pareil pour le peuple, en fait le peuple c'est version Bisounours encore une fois, ouais. Où là tout le monde est gentil.
Mais même pour la mort, moi il y a un moment qui m'avait énormément choqué, c'est quand la petite fille qui a un pull rose et des grosses lunettes,
ouais.
Parce qu'on s'attache en fait aux figurants, puisqu'on revoit toujours les mêmes dans le peuple, c'est toujours exactement les mêmes, donc on s'y attache. Et la petite fille, à un moment, donc quand il y a la distribution des masques, elle se met à taguer des V. Mmh. Et il y a un flic qui la tue. Et là, tu fais, oh, ils ont tué un enfant. Enfin, et en fait, à la toute fin du film, tout le monde enlève le masque. Et c'était de l'illusion.
Ah non, non, non. À la fin du film, c'est toutes les. On voit même Valérie à un moment.
Oui,
ils sont tous là. Stephen Fry. Donc ils sont morts, mais c'est juste pour montrer leurs idées continues.
Oui. Mais donc du coup, justement, ça te montre. Enfin, pour moi, c'est comme dans l'illusion comique de Cormeille. Il y a un côté, en fait, tout ça n'était qu'un film, et les acteurs sont toujours là parce qu'on vous les remontre à la fin. Il y a vraiment une continue fin.
Ouais. C'est pour parler du discours de V qui à ce moment-là dit un homme peut mourir, mais son idée est perdue. Enfin.
Ouais, et même Evie le dit. C'était lui, c'était ma mère, c'était mon père, etc. Et il dit ça. Bah, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on les voit tous enlever leur masque.
Oui.
Et même la fin est quand même un peu, je sais pas, il y a quand même un peu
rushé, quand
ouais,
je trouve.
Ouais, aussi, c'est vraiment pas le j'ai l'impression qu'à partir du moment où il y a le grand twist avec Evie dans la prison, ça a du mal à reprendre du rythme.
Mais même dans la BD, hein, moi je trouve que la dernière partie, c'est pas ce qu'il y a de.
J'ai eu un peu de mal à la lire, mais c'est parce que
moi
j'ai
aussi.
Du mal en ce moment.
Moi aussi, j'ai eu vachement de mal à la lire.
Mais ouais. Même pendant la quarantaine.
Non, j'ai pas réussi à toucher une BD pendant la quarantaine.
Bon, parlons du film, de la production. Donc, les droits ont été obtenus par Joel Silver en 1988. Donc, Joel Silver qui était connu pour L'Arme Fatale à l'époque, ouais. Et qui ensuite fera Matrix.
Ah, c'est lui Matrix ?
Ah, ouais, c'est lui Matrix. Et il a acheté les droits de V et de Watchmen.
Ok. Donc, j'aurais bien voulu voir un Watchmen par les Wachowski.
J'ai oublié de dire qu'Alan Moore était pas content, mais je pense qu'on est. J'ai pas forcément besoin de le dire. Si un jour Alan Moore est content d'une adaptation d'un de ses. C'est franchement là, d'un seul coup, il y aura une comète qui va tomber, il va se mettre à pleuvoir de l'or et tout. Enfin, ça va être.
Je crois qu'il est même pas content de ses propres BD. Alors, de toute façon.
Mais même si c'était adapté case par case. Je pense qu'il aimerait pas.
Non, mais je crois que même ses BD, il les aime pas.
Oui, c'est vrai qu'il finit toujours par se barrer, pas content.
Tu vois, tu lui demandes Watchmen, en fait, c'est bien. Oh non, c'est de la merde. Si c'était à refaire, je l'en ferais pas.
Et c'est lui, d'ailleurs, qui a commencé à accuser le film d'avoir été américanisé.
Oui, après, il a pas tort.
Ça.
Les Wachowski étaient fans de la BD. Elles ont même écrit un scénario pour le film avant même de travailler sur Matrix. Donc ça fait longtemps qu'elles étaient sur le coup. Elles ont continué à réécrire le projet pendant le tournage de Reloaded et de Revolution. Avant de proposer la réalisation à James McTeague, qui était assistant réel sur Dark City, sur la trilogie Matrix et sur l'attaque des clones.
Ouais.
Donc c'était son premier film et seul film, je crois.
Non, j'ai vérifié, il a fait autre chose, mais vraiment un tout petit truc. Enfin, c'est vraiment.
Il était dans la deuxième équipe de Speed Racer.
Film. C'est quoi ? Ouais, pour un premier film, c'est impressionnant, mais c'est vrai.
Ouais,
que...
mais tu sens que t'as l'impression que c'est les Wachowski qui ont tout fait. Et...
Oui, ça fait vraiment, enfin, porte-nom quoi. Mais bon.
Ouais, ça ressemble à un film des Wachowski quand ouais. tu vois.
C'est ça, il a fait l'ombre du mal, qui est un film d'horreur qui s'appelle The Raven. Non, qui est, c'est le film sur Edgar Allan Poe, je crois, avec John Cusack, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est pas terrible.
Ouais.
Et il a fait aussi Survivor, qui est un film avec Pierce Brosnan et Mila Jovovich.
Oula, oula, voilà, hein. Oula.
Qui a pas l'air...
Ferme la page. Ferme
j'ai
la
pas
page.
Vu, mais qui a pas l'air fameux. Et voilà. Donc il a fait. Et maintenant il réalise des épisodes de séries télé, notamment Sense8, où il en a fait quelques-uns.
Ouais, réaliser des épisodes voilà. de Sense8, c'est comme je disais, il a bossé dans la deuxième équipe sur Speed Racer.
Ouais, ouais c'est ça, bah, c'est le mec sûr des Wachowski, quoi.
Ouais, c'est, ouais. C'est ça.
Il a fait Ninja Assassin aussi en 2009, que j'ai pas vu, mais ça me donne vraiment envie.
Je crois qu'il y a combien de films qui s'appellent Ninja
Assassin. Justement, je me demande, mais tu vois, l'affiche, c'est un mec en sang qui a l'air de
ça. Ah, un ninja. Vraiment, une affiche avec un ninja ah ouais. assassin dessus.
Voilà, exactement.
Non, mais t'as vraiment tout dans le titre, quoi.
Ouais,
c'est bien.
Ça a l'air d'être très bien.
Au casting, on avait James Purfoy qui devait jouer V. Et il avait même tourné pendant 6 semaines avant de quitter le navire. Et les rumeurs, c'était qu'il n'aimait pas le masque.
Ouais, c'est ça, c'est à mon avis. Pour le coup, c'est un truc, un acteur qui joue tout un rôle sans qu'on le voit jamais. Ouais.
Qui embrasse ouais. Nathalie Portman sans l'embrasser.
C'est vrai.
Moi, je me barre aussi. Hein. et il a été remplacé par l'agent Hugo Weaving.
L'autre gars sûr des
Wachowski. L'autre gars sûr des Wachowski. Ça a coûté 54 millions seulement.
Ouais, ça va. Mais c'est vrai que ça fait cheap un peu. Hein. Moi, avec ouais, le recul, ça m'assure pas. C'est très enfermé, t'as très ouais. peu d'ampleur. Enfin, c'est un film qui est finalement avec le recul, tu te dis ah ouais, c'est très minimaliste. Enfin, c'est assez, ouais,
même
ouais.
les scènes avec toute la foule à la fin, ils te montrent des plans d'en haut où t'as l'impression qu'il y a des millions de personnes, mais quand tu vois des plans des gens, tu vois qu'ils sont bien espacés. S'il y avait vraiment des millions de personnes, ce serait. Enfin,
ouais,
vois,
ouais. Non, mais
genre les Champs-Élysées quand on a gagné la Coupe du Monde, tu vois. Ouais. Enfin, tu vois la différence. C'est...
Non, mais même par exemple l'explosion du. Je sais pas comment ils appellent ça.
Du Parlement.
Ouais, pas du Parlement, mais avant le premier truc qui explose avec les feux d'artifice. Ouais, tu sens que c'est pas une
c'est
séquence. Ouais, le All Baileys. Ouais, tu sens que c'est pas une séquence qui déborde de thunes quoi pour la faire. Hein.
Et ça a fait combien à ton avis ?
Oh, j'ai pas regardé. Ça a dû faire bien 160 millions.
130.
Ah, tu vois, c'est pas beaucoup. Hein.
Non. C'est pas beaucoup.
Bah pour un film.
Moi,
comme
tu fais
ça,
plus du double quand même de ton budget, donc c'est
non,
quand même
non,
pas.
T'es content,
c'est
mais
pas
c'est
dégueulasse.
Pas genre, ça casse pas la baraque, quoi.
Non, s'il s'attendait peut-être à un truc à genre Matrix ou Matrix Reloaded.
Voilà.
Ouais.
Et Matrix, c'est combien par ordre de grandeur ?
Je pense que ça va être 600, je pense, ouais. un truc comme ça. Mais
ah
après,
ouais.
c'est un film en plus qui, dans le temps, est devenu. Tu vois.
Reloaded, c'est encore plus, je crois. Ouais. Parce que les gens l'attendaient vraiment. Alors par contre, Revolution, ça a fait un beat total. Ça a fait genre 150 ou un
ah
truc
ouais.
comme ça.
Ouais. Bah, c'est un peu. Ouais. Normal.
Le mauvais bouche à oreille.
C'est exactement ça. Bah, il y a un peu la déception de la.
Bienvenue dans Matrix Explaining, mon podcast préféré.
Ouais, celui que tu vas faire bientôt.
Allez, on passe au film.
Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot.
Ça commence avec une voix off de Nathalie Portman, et là je vais faire plaisir à Zoltan. Qu'est-ce que c'est que cet accent Nathalie Portman pendant tout ce film ?
D'accord.
Ah, bah si toi tu le remarques, c'est que vraiment il y a un problème là.
Ouais, vraiment. Ouais.
Ah ouais.
C'est ce que je disais à Max en DM une fois, parce qu'on parlait un peu du film après l'avoir vu. Et lui il me disait ah, j'étais impressionné par Nathalie Portman. Moi je dis putain, j'étais dérangé pendant un bon bout de temps parce que j'arrive pas à y croire, Nathalie Portman, la britannique là. Enfin,
ça
passe
ça marche
pas.
Je sais pas, il y a un truc qui va pas.
Ça t'a pas choqué ?
Bah, au début, je savais pas que c'était Nathalie Portman, donc. Dans la voix off.
Ah oui.
Ah, tu lui avais même pas vendu le film, genre. Elle
l'avait déjà vu, elle l'avait déjà vu.
Ah. On nous montre Guy Fawkes, qui est donc ce personnage historique qui avait essayé de faire sauter le Parlement, il s'était fait pendre.
quand même une, c'est un mec 5, improbable sur l'histoire de ce gars. Non mais tu vois, c'est vraiment l'anecdote à deux balles, genre ouais, un mec il a tenté un truc,
c'était un terroriste, un vrai à l'ancienne. Ouais,
c'est,
ça, quoi, ouais.
Voilà. Bah, c'est ce qui donne pour le coup la crédibilité anarchiste du film. C'est de reprendre un fait historique.
Et c'est ce que Veil fait tous les 5 novembre, il fait pareil en fait. Oui, parce que l'autre a échoué, sauf que Veil il y arrive.
Non mais ça me fait marrer qu'on se souvienne d'un
truc. Et pour le coup, c'est super bien réussi parce que le masque de Guy Fawkes, il a été inventé par David Lloyd, qui est le dessinateur avec lequel bossait Alan Moore, pour la BD. Et c'est devenu un masque iconique, ça a même repris par les Anonymous.
C'est vrai qu'on a oublié de parler d'Anonymous, tiens.
Ah bah non, mais de toute façon...
C'est devenu un truc de dingue, ce masque, qui est juste un dessin, en fait.
Ouais.
On imagine s'il y avait eu un mec qui s'appelle Guy Fawkes, enfin c'est...
Ah mais parce que Guy Fawkes, il a vraiment existé aussi, bidon.
Ah oui, il a existé.
D'accord, il a vraiment existé.
Ouais. Mais il n'y a jamais eu de masque de Guy Fawkes avant la BD V
pour 22 ans. Ah oui, bien sûr.
Oui, voilà. C'est
parce que ça ressemble à un masque de Commedia dell'arte, en fait, quand tu le vois au départ.
Non, ce qui est marrant, c'est que dans la BD et dans le film, ils sont au courant du masque. Genre, quand ils voient le masque, ils disent « Ah, oh, c'est un masque de Guy Fawkes !» Genre, comme si tout le monde en avait, tu vois.
Ah, c'est une dystopie, hein. Ils peuvent se le permettre.
Non, mais genre, je me fais marrer à quel point la figure de Guy Fawkes, elle est genre... elle a marqué, tu vois, genre...
C'est dans la rime, « Remember, remember ». Alors, t'es obligé de t'en souvenir.
Ça. Mais genre, enfin, je sais pas, ça me fait...
Après, peut-être que...
C'est le but de la rime, souviens-toi de GIF de Guy Fawkes, quoi.
Oui, non, mais je me demande si c'est un vrai truc que les gens connaissaient en dehors de la BD, en fait. Enfin, tu vois, dans la BD, ok, on a envie que les gens y croient, enfin, que les gens se souviennent de cette histoire et tout, mais est-ce qu'en vrai, c'est un vrai truc que les gens
se souviennent ? C'est un héros du folklore.
C'est un héros anglais, en plus. Ouais. Nous, on connaît moins bien les héros anglais que les héros français.
Bah, nous, on n'aurait pas laissé un terroriste qui foire son attentat devenir un espèce de truc iconique dont on parle 400 ans plus tard.
Bon, écoute, regarde la Révolution française, c'était des gens qui faisaient tout péter.
Ils ont réussi. Ceux qui échouent, je suis pas sûr qu'on les aurait gardés en mémoire.
Ils ont réussi, ils sont tous finis décapités.
Ah ouais.
Ouais.
Donc c'est une forme de réussite amoindrie.
Tous finis décapités par le même mec qui a fini aussi décapité. Ah, c'est beau la France, quel beau pays. Ivy se prépare Et comment ils ont traduit ça en français, Ivy, il l'appelle Ivy ou...
Ouais, je ne l'ai pas regardé
parce
en vrai.
Eve, peut-être.
Eve, peut-être.
Ouais, peut-être.
Non, je pense que
non, c'est rend moins bien.
Ouais, mais ça ne marche pas.
Bah, Eve, c'est V à l'envers.
Oui. Non, mais surtout,
donc ça marche, techniquement.
Ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, c'est sûr que... C'est marrant parce que le début est très similaire entre la BD et le film. Sauf que la BD, elle va faire le trottoir et elle a 16 ans. Le film, c'est la Téléportman qui va au rendez-vous galant, quoi.
Ouais, elle va rencontrer Stephen Fry, c'est ça le truc.
C'est pas un rendez-vous... Enfin, moi, je trouve...
Bah non, il est gay,
Moment, il fait croire qu'il est pas gay en recevant des jeunes femmes pour justement...
Au départ, tu penses qu'elle va à un rendez-vous galant. Ensuite, quand tu la vois dans le studio... Il y a une de ses collègues qui dit « Ah, t'avais rendez-vous et tout. » Et genre, t'as l'impression que c'est genre un droit de cuissage du patron.
Bah, c'est ça. C'est comme ça
qu'il ensuite, faire. On découvre qu'il était gay et du coup qu'il n'aurait rien fait.
Oui, mais ça, elle y va quand même.
Mais c'est crescendo.
Galant,
non, il voulait juste lui lire le Coran. C'est tout.
Ouais, c'est ça. Mais discrète au sens. Surtout, ça me fait marrer parce que genre, tu dis « Mais mec, tu lis l'arabe, toi ?» C'est genre parce qu'il est là, un Coran du 14e siècle.
Ouais, mais non, c'était une édition...
Bah, originale, non
enfin, moi, j'ai... Non, c'était pas en arabe, je crois.
Je crois qu'elle est tellement genre en mode, elle fait vraiment
C'est à cause de ça qu'il se fait tuer, d'ailleurs.
Il n'y a pas de gros plan dessus, mais tu sens que c'est une édition originale.
Il est là, il y a tellement de poésie dans ce bouquin, j'adore lire des versets. Oh, tu lis l'arabe, toi. Pourquoi pas, oui.
Il n'a pas la tête de l'emploi au départ.
Non. Et c'est un mec plein de surprises, donc, de toute façon...
Là, on apprend que l'Amérique a fait la guerre au Royaume-Uni et qu'un virus a tué des milliers de gens.
Ouais.
Donc déjà, c'est là qu'on diverge un peu des...
Ouais, bah le début, en fait, on découvre la voix de Londres, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Or, je trouve ça pas mal, parce que dans la BD, c'est la voix de... Ils appellent de...
Du destin.
Ouais, la voix du destin. Et à ce rapport où c'est pas un... Là, c'est un mec, un présentateur télé, quoi. Ouais. Donc il est incarné et tout, alors que dans la BD, il y a toute...
C'est la radio, en fait.
Ouais, c'est la radio.
C'est
y a
un
vraiment
ordinateur,
cette notion,
le destin, en fait. Bah, un ordinateur surpuissant.
Ouais, c'est ça. Enfin, il donne dans la BD, il donne pas de. Les gens pensent que c'est pas forcément un homme, quoi. Il y a vraiment cette espèce de truc de se dire, c'est la voix du destin et elle est pas incarnée par un mec. Alors que si, c'est.
Mais
Rotero,
si, c'est ce qu'ils disent justement dans la BD, c'est que c'est un ordinateur, mais pour faire croire que c'est un homme, on a mis une voix d'homme. Et d'ailleurs, quand il est pas tué dans la BD,
il devient fou.
Et donc du coup, ils ont un gros problème parce qu'ils disent, on peut pas le remplacer parce que les gens pensent que c'est un homme, mais s'ils découvrent que c'est un ordinateur. Ça va poser problème.
Ouais. Si d'un seul coup il fait bip boup bip boup, ils sont dans la merde. Quoi.
Non, les gens ils parlent pas le binaire en plus.
0, 1, 0, 0.
Ouais, alors que dans la BD, dans le film, en effet, c'est un mec comme tous ces gars qui font du fast cam en disant des conneries sur la vie. C'est un Pascal Praud un peu quoi.
Pascal Praud.
Ouais, Eric Zemmour, vous choisissez.
Ça y est, ils ont été cités dans le podcast. Ça y est, le podcast il est fini. J'arrête.
C'est bon.
Donc, Evie, on l'appellera comme ça, enfreint le couvre-feu. Elle n'a pas l'air de se prostituer là, cette fois.
Non. C'est marrant ce changement.
Mais on a quand même des flics qui veulent la violer, clairement, qui abaissent leurs pantalons et qui l'attrapent. Et trigger warning. Quoi.
Ah oui. Ouais. Très rapido, ces flicos. Hein. Ils sont chauds.
Ouais, ils sont chauds. C'est vraiment aussi le cliché, tu sais, ils sont tous moches. Ils sont tous très moches. Tu sais, genre, c'est les méchants, donc ils sont tous très moches.
Ouais.
Ah bah, il y en a un, là, celui qui perd son pantalon et qui finit en slip, il est ignoble, quoi. Enfin, vraiment, ouais. Tu sointes, t'as l'impression vraiment il est malsain, quoi, direct.
Ah, et puis j'ai l'impression qu'on sent que c'est écrit par des Américains, parce que... ils arrêtent pas de dire bollocks, ils arrêtent pas de dire que des expressions anglaises qu'on entend tout le temps et que tu sens que c'est pas comme ça que les gens y parlent à Londres.
Ouais, ils sont forcés, tu sais,
ouais, voilà.
Le slang forcé, quoi.
Ouais.
C'est comme quand des mecs veulent écrire des personnages de banlieusards et qu'ils sont pas en banlieue.
Combat Matrix.
Un peu, ouais. Ouais, mais moins bien filmé quand même. Enfin,
ouais, mais c'est le même. Tu sais, quand tu vois la traînée derrière les couteaux, là, tu vois,
oui,
ça
oui.
Fait très Matrix.
Ouais. C'est un dérivé du bullet time.
Ouais,
peu,
ouais.
Oui, et puis il y a le grand manteau de V, forcément. Ouais. Enfin, il y a toujours la même stature, mais c'est moins bien.
Ouais, c'est moins marquant. Quoi.
Ouais, je trouve que c'est le gros point faible du film.
L'action ?
Ouais.
Il n'y en a pas beaucoup déjà. Mais...
Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment trop... Non, ça aurait été mieux si ça avait été rapide dans 2 secondes, tac, 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 tu le vois juste se déplacer et tuer les gens, plutôt que de nous montrer exactement chaque mouvement qu'il fait au ralenti, tout ça. Ouais.
Ouais, bah, sur le moment, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais trouvé ça plutôt cool. Mais
ah oui, à l'époque,
voyant,
moi aussi, je me tapais le cul par terre. Hein, ouais. C'était genre, ah, j'adore V for Vendetta, c'est le meilleur film du monde. Bon, maintenant, je suis 32 balais, je suis un vieux con.
Il y a un combat où ça marche, c'est genre l'un des combats de la fin, celui dans le métro.
Ouais.
Parce qu'il lui dit, j'ai oublié son nom, le flic, il lui dit genre Lynch. Je vais forcément gagner parce que moi j'ai des armes, on est plusieurs contre toi, et toi t'as juste tes petites techniques de ninja.
Ah,
et
ça c'est Creedy qui lui
ouais,
dit
ça. Creedy, ça.
Et là il dit ok, et en fait il a un gilet pare-balles, et donc il vide leurs balles, et après... Et donc du coup là c'est justifié le côté au ralenti, parce
ouais.
que ça a été bien expliqué en amont et tout. Mais les autres fois c'est vrai que ça pourrait aller plus vite.
Ouais, je sais pas.
Bah ça fait un peu ringard maintenant.
Enfin, j'ose imaginer Alan Moore quand il a vu ça. Je pense que c'est vraiment là le moment où il a fait ouais, je me casse. Moi,
il s'est jeté la tête dans la cuvette des toilettes.
De ninja enfoiré. V c'est un ninja, bande de bâtards.
V aime les rimes et citer des trucs. Il adore faire des citations.
Je comprends rien quand il parle.
Et Hugo se fait plaisir. Hugo Weaving se fait un plaisir fou dans tout son monologue à base de V
dans la ruelle, quoi.
Ouais. Tout ce qu'il dit, ça a du sens en plus. Hein.
Ouais,
c'est
mais
pas
c'est
dans,
dur à capter. Hein.
Ah ouais, c'est des vieux mots.
Avec les sous-titres, en français, pas en français, en anglais, c'est.
Ouais, le mieux, c'est de les relire tranquille.
Ouais, ouais.
Dans le film, il y a énormément de références à l'évangile, en fait. Mais le truc, c'est qu'aucun de nous trois connaît par cœur l'évangile. Donc, du coup, si on te l'a pas dit.
Bah, je t'en prie,
pas...
moi, je suis. écoute.
Un évangéliste.
C'est la
tu lis le Coran.
Celle
dans
selon
le texte.
Matthieu, celle de...
Et aussi des références à Shakespeare. T'as plein de citations.
Ah oui, oui.
Et du coup, t'as vraiment tout le côté théâtre et tout. Et c'est sûr que, déjà dans la BD, c'est lourd. Alors dans le film, ça devient encore plus...
Ouais, il parle presque qu'en citation. Hein,
oui, totalement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le genre de moment où tu te dis comment les... Tu sais, quand tu maîtrises bien l'anglais, mais bon... Tu t'assures toujours avec des sous-titres ou pas, tu fais. Mais en fait, les sous-titres, là, ça me dessert totalement. Parce que je peux pas lire les trucs en français qui essaient de traduire tous les trucs avec des V en même temps, tu l'entends, c'est mort.
Ouais, il aurait pu citer les Beatles, c'est tout, quoi.
Bah, moi, j'aurais compris.
Tout le monde aurait.
She loves you, yeah, yeah, yeah.
C'est le 5 novembre, donc V doit faire sauter des trucs. Parce
que
c'est le 5 novembre.
On est encore le 4.
Ouais, on est encore le 4. Il joue du Tchaïkovski. Et fait sauter Old Bailey, qui est un peu le tribunal de grande instance de Londres.
Ouais.
En fait. Voilà, c'est ça.
Ouais, je pense. Enfin, c'est pas un bâtiment plus marquant que ça, mais.
Si, il y a la. C'est la statue de la justice en haut.
Ouais, non, non, le bâtiment est super connu, mais je veux dire, nous, pour nous, oui, ce serait le tribunal de grande instance, en fait. John Hurt est là, en grand dictateur, après avoir joué un rôle inverse dans 1984.
Ah oui, c'est vrai qu'il jouait le personnage principal.
Il joue le personnage principal dans... Il y a quand même beaucoup de 1984 dans...
Dans le film, ouais. Beaucoup plus que dans la BD.
Dans le film, avec le grand écran, la salle vide, avec juste les mecs qui sont tournés vers l'écran...
Ouais, mais c'est quelque chose que je trouve qui manque un peu dans le film et qui est super bien dans la BD, c'est justement tout l'explication déjà de la montée de ce parti.
Ouais, et aussi,
et même l'organisation en fait, qui est beaucoup plus
les yeux, les oreilles, les mains, le nez.
Ouais, exactement. Ouais. Non, mais qui est beaucoup plus terre à terre en fait. Y a un truc. Alors que là, dans le film, ils ont voulu créer des visuels pour raconter le truc et ça fait
cliché.
Ça fait cliché quoi. Ouais.
Ça fait même si Hitler était là de nos jours, il ferait pas ça. Quoi.
Ouais, c'est vraiment.
Ce serait un peu trop limite.
Non, mais il y a Equilibrium qui est passé par là, qui a fait pareil.
Mais oui, c'est ça en plus.
1984.
1984, il y a eu déjà la grande pub, c'était quoi, Nike
Non, c'était Macintosh.
Macintosh, voilà, la super pub qui est une des pubs les plus connues.
Ouais, qui est la plus connue du tout.
Et c'était pareil, un grand écran avec des gens tournés dessus.
Ouais. Bah, c'est l'image du totalitarisme. Je pense que c'est un écran qui parle à des gens, quoi.
Mais John Hurt, j'aime bien.
Et puis en plus, t'as la voix donc, de John Hurt. Où il prend un phrasé et t'as l'impression au départ d'entendre Charlie Chaplin dans le dictateur.
Ouais,
c'est ultra haché et tout.
Bah, c'est aussi basé sur Hitler.
Oui.
Ouais, Hitler avait cette façon de parler aussi.
Bah, il a un peu une espèce de.
Je fais des grands gestes.
Ouais. Mais des gestes pas recommandables. Mais,
non, je fais pas ce genre de gestes. Dis pas ça, attends. Ça, ce sera coupé, ça.
Mais John Hurt, moi j'ai mis du temps à le reconnaître. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est, il se ressemble moins que d'habitude.
Ah ouais.
Ouais. Surtout, je sais pas. Mais je suis même allé vérifier deux fois en me disant, mais c'est vraiment John Hurt.
Peut-être le book.
Ouais.
Non, il a toujours un book John Hurt.
Je sais pas, c'est peut-être une période où on le voyait pas beaucoup et qu'il est pas encore vieux trop. Et tu sais, il est entre deux âges.
Avant qu'il joue dans Doctor Who.
Ouais, mais ça, j'ai jamais regardé de Doctor Who.
Il joue un des docteurs. Ouais.
Ah, il joue un des docteurs.
Ouais.
Mais
le War Doctor. Le docteur
de la guerre.
Ah d'accord,
des docteurs principaux.
Il fait partie du cycle de régénération du docteur.
D'accord.
C'est un des docteurs.
Mais des années 2000 ou bien avant?
C'est compliqué le docteur parce que c'est à travers le temps. Donc,
oui, non, mais pour nous, je veux dire.
Pour nous, c'était il y a 5-6 ans, peut-être un peu plus. Ouais.
D'accord, oui, mais il y avait un autre docteur qui faisait la tête.
C'était avant celui de Capaldi. Bref, pourquoi on parle de Doctor Who?
J'ai jamais regardé.
Parce qu'on parle de l'acteur.
Aux infos, ils disent que l'explosion était voulue. Ça, j'aime bien aussi le côté bien propagande. Que dès qu'il se passe un truc, ils essaient de trouver la pire explication à chaque fois. Ivy, il travaille comme assistante.
Oui, un truc que j'ai du mal à gober, juste. C'est quoi? Il y a 6 mecs devant John Hurt, à peu près, qui sont genre. T'as l'impression que c'est un peu les ministres.
Et de temps en temps, il y a
logiquement, il y a les 5 sens.
Oui, c'est ça. Mais
la vue, l'ouïe, l'odorat,
mais
le toucher.
Je trouve qu'il y a une dichotomie entre l'importance que tu leur donnes à être genre les mecs qui parlent directement au chef et fondamentalement ce que tu les vois faire après. Quoi. Enfin, je veux dire, le flic, c'est quand même vraiment un pélo dans un bureau qui est tout seul en train d'enquêter comme un pélo, enfin à galérer. Et pourtant, c'est à lui que parle directement le chef de.
Le budget, il va dans les poches des chefs, en fait, c'est ça le truc.
Ouais. Non, mais je trouve que l'organisation dans le film, j'ai du mal à y croire, quoi.
Mmh. Ouais, il y a un truc.
C'est trop simpliste, quoi. Il y a vraiment.
Ouais, et puis on mélange par exemple cette pièce avec le grand écran, et tu pourrais t'attendre à ce que chacun des ministères ait un style. Je sais pas, un style baroque, un style. Tu sais, que les immeubles soient.
Non, mais c'est là où c'est.
Tous les murs soient en noir, enfin un truc. Que ça ressemble à l'Empire dans Star Wars, tu vois. Ouais.
Truc c'est là où ça fait cheap, en fait. C'est que c'est vrai tu vois rien de cet univers-là, en fait. T'as très peu de choses, hein.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça où ça m'a surpris, c'est que j'avais oublié à quel point la construction de l'univers, elle est finalement assez faible.
Stephen Fry, t'aimes bien?
Pareil, je suis allé regarder sa fiche IMDb, j'ai eu du mal à savoir dans quoi je l'avais vu. Quoi.
Ah, quand même.
Ouais.
Fry and Laurie avec Hugh Laurie, où ils se sont fait connaître tous les deux en tant que comédien. Lui, il a fait beaucoup de stand-up, beaucoup de trucs comme ça. Il a l'émission QI, qui est super bien. Il a fait plein de bons documentaires, dont un documentaire sur la bipolarité, qui est super bien parce que lui, il est bipolaire. Et donc, il est allé voir plein de célébrités, dont Carrie Fisher, par exemple. Il est allé voir plein de célébrités pour parler de ça. C'est un mec que j'adore. Quoi.
Ouais, d'accord.
Vraiment, en Angleterre, il est vraiment adoré, ce mec. Alors que c'est vrai qu'en tant qu'acteur, on le voit pas forcément dans beaucoup de trucs. Donc,
ouais, moi qui suis pas du tout la culture britannique.
Il était dans Le Hobbit, par exemple. Il jouait le maire ou le truc comme ça de la ville, là, où c'est pas forcément un rôle.
Oui, parce que je vois le rôle que c'est.
Ouais, aussi. Voilà, quoi. Mais sinon. Ouais. Enfin, moi, j'aime beaucoup Stephen
Fry. En tout cas, il a un rôle qui est surprenant, parce que c'est un rôle qui n'existe pas du tout dans le bouquin.
Non, il est bien, c'est un bon ajout, en plus.
Ouais, ouais, alors je suis juste dubitatif sur le twist. Pas le twist, mais le ce qu'il fait pour et qui va le mener à sa mort, quoi. Enfin, ce
garder des œuvres d'art, ouais.
non l'émission, enfin le moment où il part en cahouette et qui fait son émission,
bah, ça on en parlera,
ouais. Je trouve ça bizarre,
ouais. V débarque avec une bombe parce que c'est son truc,
c'est un truc qui arrive super tard dans la BD, c'est troublant parce qu'ils l'ont mis au tout début du film quasiment, parce que là Nadie Portman elle est même pas allée chez lui, enfin
non il y a, ouais. y a tout le passage,
il
est
juste
lui,
sauvé et
elle retourne
un peu mélangé les trucs, en fait,
ouais. Alors que ça, dans la BD, ça arrive une fois que Nathalie Portman elle a déjà vécu, enfin que le personnage d'Ivy a déjà vécu chez V un peu, et ça arrive super tard, quoi.
Et puis même, Ivy...
Ouais, mais ça va avec la simplification du parcours d'Ivy, parce que dans la BD, t'as vraiment un parcours initiatique où elle a des doutes, en fait. Elle lui dit, je suis pas sûre, ce que tu fais, c'est pas bien, tu tues et tout. Et puis elle a envie de l'aider, quand même. Et ça prend beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus consenti, en fait. C'est beaucoup plus... Alors que dans le film... T'as l'impression qu'il lui impose. D'ailleurs, quand elle tase le policier pour défendre V, elle dit, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Genre, j'ai eu une impulse, en fait. Et on a l'impression qu'elle subit beaucoup plus Nathalie Portman que le personnage de la BD. Elle subit cette transformation et d'une certaine façon, c'est un peu un totalitarisme parce que ça lui a été imposé.
Mmh. Oui, bah, c'est ça. Ouais.
En plus, dans la BD, tu sens qu'elle est vachement plus proactive et elle est beaucoup plus d'accord avec ce que V veut faire.
Mmh. Bah oui,
presque tout le temps. Elle est presque, elle est presque révolutionnaire. Dès le
début. Dans le film, elle s'enfuit. Mais...
Ouais, voilà.
Non, parce qu'elle a une vie de merde dans la BD. Ouais. Enfin, je veux dire, dans la BD, elle a vraiment une vie.
Alors que là, elle a un boulot.
Ouais. Dans la BD, elle est obligée de se prostituer. C'est la première fois qu'elle va se prostituer quand elle se fait emmerder au début de la BD. Parce qu'elle est au bout du rouleau, quoi. Mmh. Donc, fatalement, c'est pas le même personnage. Là, c'est vrai qu'il y a ce côté. Elle sert des cafés à un mec qui est plutôt cool. Enfin, tu vois, son boulot, il a l'air sympa.
Ouais.
En effet.
Son patron, il la drague.
Toi, t'as plus. Bah, il la drague pour de faux, au final.
Pour faire
genre, quoi. Mais c'est vrai qu'au final, on a plus l'impression qu'elle le fait parce qu'elle aime V que pour les idées qu'il pouvait l'équiler, quoi.
Oui.
Bah, en parlant de V, il pirate les ondes et il accuse le peuple d'avoir abandonné. Il leur donne rendez-vous dans un an. Ils ont intérêt à venir parce que sinon, ça va chier.
Ouais, bah ça, c'est quand même cette séquence. Elle a été reprise dans une vidéo qui a fait énormément parler à l'époque, avec le discours de Charlie Chaplin qui avait été collé dessus. Je sais pas si vous souvenez.
Oh mon dieu, mais les gens, faut qu'ils arrêtent.
Ah, mais elle était trop bien, cette vidéo, j'avais adoré, moi.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit ajouté dans V for Vendetta pour que ce soit bien
ça... Non, mais parce que ça donnait cet aspect genre Anonymous moderne, qui vous parle, moderne, avec la musique d'Inception derrière, pour te faire plaisir. C'est une vidéo que j'aime beaucoup.
Chaplin qui était communiste, d'ailleurs. Donc...
Ouais, bah en tout cas, son discours, il est efficace, hein, je peux te dire.
V s'échappe, mais avant, il récupère Ivy. Et les infos annoncent que V est mort avec une vidéo où tu vois bien que c'est un mec avec un masque qui est attaché qui peut rien faire. Il se fait tirer, il se fait complètement assassiner, le mec. Et
ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, donc dans la BD, encore une fois, la voix du destin, elle est déjà zigouillée. Enfin, le mec, il est fou. V, il est déjà quasiment au bout de ses meurtres. Et là, il a le mec. Enfin, à part avoir fait, il a pas du tout intervenu encore, quoi.
Non, ils font vraiment la différence entre ce 5 novembre au début du film et le 5 novembre qui est à la fin du film. Ouais. Et au milieu, c'est les 1 an, quoi. Et c'est beaucoup plus comme ça que dans la BD.
Bah, la BD, mais c'est ça qui est un peu. Je la trouve un peu compliquée. Par moment, tu sais, t'es perdu, quoi. Si tu fais pas hyper gaffe aux dates et tout ça, t'es un peu perdu temporellement parlant. Bon, là, c'est sûr que c'est beaucoup plus.
Même dans la BD, ils font les recherches, ils se rendent compte que V est probablement le mec qui avait été interné dans la chambre 5 à l'Arkhill. Ils recherchent les gens qui ont travaillé à l'Arkhill et ils voient qu'ils sont tous morts. Ils font « mais en fait, ils ne sont pas morts de mort naturelle. » Du coup, ça fait très très longtemps qu'il était là et on ne s'en était pas rendu compte et tout. Enfin, alors que dans le film, justement, en termes de science, c'est 5 novembre 2015, 5 novembre 2016, je ne sais plus exactement la date.
Mais il a commencé
mais
son truc
vraiment,
dès
c'est
maintenant.
C'est vraiment un an. C'est... Mmh. Il y a la temporalité, voilà, c'est en un an.
Ivy se réveille dans le musée de V pendant que Cry Me a River joue sur le jukebox. Je précise, c'est pas la version de Justin Timberlake.
Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas reconnu.
Ça, je me demande si quelqu'un l'a fait. Tiens. Sur YouTube, je suis sûr qu'on peut trouver ça.
Non, je pense que personne ne s'est fait chier à le faire.
Si je m'ennuie, un de ces quatre. J'avais bien mis des trucs de Twin Peaks dans une scène avec Baby Yoda une fois. Donc,
bravo.
Voilà.
Ah oui, la fameuse où il appuie sur le truc du vaisseau.
Ouais, voilà. Ouais. Il veut la garder pendant un an, alors qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il n'y a pas de balcon.
Ouais, il a un grand appart, mais pas forcément hyper accueillant, quoi.
Il espère très fort dans le syndrome de Stockholm.
Ouais, c'est vrai. Il fait un petit déj, avec classe. Hein.
Très
il
rigolo.
Donne envie, hein, son truc, son espèce de pain avec un œuf au milieu, là.
Ouais. C'est une sorte de croque-madame, mais sans ce qu'il y a en dessous.
Ouais, c'est
sans jambon, sans
fromage. Voilà, c'est une sorte de madame.
Ouais. Je sais pas s'il fait un trou dans le pain et qu'après il met l'œuf.
Il appelle ça le nid d'œuf.
Ouais, je sais plus comment ils appellent ça, mais bon.
Non, mais ils sont pas comme nous, ces Anglais, de toute façon.
Ah, culinairement, non, ils sont pas comme nous.
Ah, non, c'est clair.
Ça, pour le coup, je leur laisse.
Bien les beans et les baked beans et les beans beans.
Et le bacon.
Ça, j'aime bien.
Ah oui, mais les bacon américains, l'anglais, même pas trop.
L'anglais, c'est des trucs ronds. Là.
Ouais, c'est nul, c'est décevant, c'est du faux bacon, quoi.
J'aurais aimé que ce film soit plus anglais que ce qui était fait par des anglais, avec peut-être un plus petit budget.
Ah, plus petit budget.
C'est un film noir, un truc.
Tu n'es pas d'accord avec
ça. Non, mais c'est pas faux. Récemment, il y a un film que j'ai vu qui, pour moi, avait une approche intéressante. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est Captive State.
Ça me dit rien.
C'est un film de SF qui est sorti l'année dernière, qui est un film et qui parle un peu justement de comment tu, quand t'es sous un régime totalitaire, là c'est des extraterrestres qui nous ont conquis et donc qui nous contrôlent, comment une résistance se crée, quoi. Et c'est un film qui est finalement assez minimaliste, malgré le fait que ce soit un gros film de SF ricain.
Ah bah tiens, en parlant de ça, le réalisateur a dit que sa grosse inspiration c'était la bataille d'Alger.
Donc oui, voilà. Donc ouais. Ce côté
film préféré du gouvernement français pendant très longtemps.
Évidemment, je l'ai jamais vu moi, mais
Il est super.
Oui, je sais.
C'est vraiment un très bon. Bon après moi je dis ça parce
c'est
que voilà, c'est la famille, mais je sais plus. C'est un Italien, non?
Ouais, je crois.
C'est un réalisateur italien. Ouais, c'est vraiment sur la bataille d'Alger pendant la guerre d'Algérie.
Bah, c'est un peu l'armée des ombres, mais ouais, du côté algérien.
Et ça te montre. Ça te montre bien les choses. En fait, c'est tellement rare qu'on fasse. Nous, on fait jamais de films sur le colonialisme en montrant à quel point on a merdé sur certaines choses. Tu vois,
les Américains, ils le font tout le temps.
On n'est pas du genre. Ouais, nous, ils ont fait par exemple. La guerre du Vietnam était même pas finie, qu'ils faisaient déjà des films sur le fait que c'était de la merde, tu vois. Alors que nous, on fait jamais ça, quoi. C'est impossible pour nous de nous dire. Un film sur la guerre d'Algérie à cette époque-là, fait par des Français pour dire que c'est de la merde.
Moi, je me rappelle, il y a eu peut-être Mon Colonel qui est sorti genre. En 2008, et c'était un des premiers qui vraiment adressait le truc en mode bon, on n'était pas net à cette époque-là.
Non, c'était pas très cool. Non.
Oui, en effet, ouais, on a mis du temps avant de dire quoi que ce soit.
Ah, la grandeur de France. On est en train de dire du bien de tous les pays depuis tout à l'heure. Ouais. Là, c'est bien. Là. On est des vrais anarchistes.
C'est ouais. L'époque. Mais donc c'est vrai que ça aurait pu avoir cette approche un peu plus tu vois, de fouiller un peu plus le au lieu de se concentrer sur le V qui est genre un espèce de ninja machin. Non mais c'est vrai, au final c'est ça, de peut-être...
C'est un super-héros hein, dans le film, c'est vachement...
Ah ouais, c'est ça, c'est hyper...
Le fait qu'il survive à l'explosion, ils ont fait des drôles de tests sur lui, c'est un super-héros ou un super-vilain, ça dépend comment...
Oui, non, c'est clair, il a des super-pouvoirs un peu, enfin il est
ouais,
super
il
fort...
Il prend plein de balles, il arrive à se relever...
C'est vrai qu'il a un côté de Joker...
Parce que tu dis qu'il avait un gilet pare-balles, mais quand il l'enlève, il est plein de trous le truc. Hein, donc,
oui, mais parce qu'il le montre vraiment. Ouais.
Non, mais même Creedy, il le lève à une main, il prend, t'as l'impression qu'il en fait ce qu'il veut. Quoi. Et c'est vrai que de se concentrer sur ce côté héroïque du personnage, en tout cas, de faire vraiment.
C'est trop manichéen ce film en fait.
Ouais, c'est possible.
Il souffre trop d'essayer de. Les gentils, ils sont gentils, les méchants, ils sont méchants en fait. Ce serait bien de voir.
Non, mais alors que c'est ça la BD où ça peut être un peu justement déstabilisant, c'est qu'il prend le temps. Moi, ça m'a fait penser un peu à Hit, la BD, quand je l'ai relu, là. Parce qu'il y a vraiment ce truc où tu prends le temps de développer le deuxième flic. Tu vas avoir des chapitres entiers sur sa vie conjugale. Et, non, mais ce que ça implique, et quand il meurt, bah, t'as la répercussion de ça. Tu vois, c'est pas gratos, quoi. C'est pas juste un personnage qui est là pour crever. C'est en mode, bah, regarde, en fait, quand ça fait ça, et la meuf, elle doit faire ça après pour survivre et machin. Et...
Ça me fait penser à une scène dans Austin Powers. où il y a un des sous-fifres non nommés du docteur d'enfer qui meurt.
Bah c'est, j'adore cette
scène. Et ils appellent sa femme et tout, et donc ça réagit. En fait, tu vois un peu toute la vie qu'il avait. Ouais. Et
c'est, un mec, c'est le gamin qui
c'est
répond.
C'est un mec bien.
Tu peux passer ta maman ?
Je crois que cette scène me fait le plus rire.
Ah ouais, j'adore. Le moment où il y a tous les potes qui vont. Le mec va pour se marier, et ils sont à l'enterrement de vie de garçon, ils l'attendent, et donc il reçoit l'appel, et là ils sont tous à boire une verre, et font. John Smith est mort, il a été mangé par une bande de barres très très féroces à John Smith. Ils lèvent tous leur verre à John Smith. Et c'est le mec qui a été. Après, c'est le mec qui a
c'est
été.
C'est tellement américain comme scène en plus.
Ah ouais, j'adore. Le mec qui se fait écraser par le rouleau, c'est lui. Ouais, il appelle son fils et tout. C'est horrible.
V rend visite au chef de la propagande qui prend une douche entourée de télé. Là encore, la déco.
Ouais, qui se regarde et tout. Ouais, ouais.
C'était le maton dans la prison, enfin le chef de la sécurité de la prison.
Protero.
V, c'est un excentrique. Hein, on
et
peut
c'est
le dire.
Aussi la voix du destin.
Oui, c'est la voix du destin. Ouais.
Mais c'est vrai que dans la BD, il le rend fou.
Pour ça, je disais chef de la propagande, mais en fait, c'est ça. Quoi. Ouais. Ouais.
Pour le coup, je trouve dans la BD, la référence au four crématoire est beaucoup plus saisissante. Quand il brûle les poupées et tout.
Ah oui, parce qu'en plus, il l'emmène dans un espèce de d'endroit.
Il lui fait revivre, il l'endort, et quand il se réveille, il a son costume. De chef de
l'armée camp,
et du coup il est là en train de nier en disant non mais moi j'ai jamais fait partie de l'armée et tout, il dit mais si j'étais là et tout, il lui fait revivre tout le truc, enfin c'est beaucoup plus cathartique.
Ouais, et puis V dans la BD il est vachement plus hardcore aussi.
Ah ça c'est sûr,
là il est gentil, il met des roses, il fait au final il est très gentil hein, dans le alors que tu te dis que t'aimerais pas passer tes dernières minutes avec ce mec, quoi.
Ouais. Bah même avec la meuf, la médecin légiste, dans la BD, c'est la même scène, sauf que ce qu'il lui dit est beaucoup plus rude, quoi.
Ouais.
Il la met vraiment bien plus en face de ses contradictions que dans le film, où t'as l'impression qu'il l'aime vraiment, enfin, il a vraiment une vraie relation, tu vois.
V se bat contre une armure.
Oui, c'est vrai. Pour faire le Comte de Monte Cristo.
Mais ça, c'est le côté romantique, Comte de Monte Cristo... Parce que pour le coup,
c'est
ça.
C'est dans la BD, ça, j'ai oublié. Non,
t'as
pas
le Comte de Monte Cristo dans la BD, et c'est vrai que ça apporte énormément de voir les scènes, si tu connais le Comte de Monte Cristo, j'imagine. Parce qu'il y a toute cette tradition du mec qui a été enfermé par erreur, et qui après a réussi à s'évader, et qui se venge, qui est devenu super. Enfin, dans le Comte de Monte Cristo, il est devenu super riche.
Jean Valjean, un peu aussi, ouais.
Et du coup, après, qui va retrouver tous les gens qui lui ont fait du mal pour se venger.
Ah, c'est Kill Bill, quoi.
Bah, c'est monté. Enfin, pour le coup, c'est V, quoi. C'est ce qu'il fait dans le film. Ah,
et donc, du coup, t'as vraiment. Enfin, je trouve que voir des extraits du Comte de Monte Cristo, quand tu vois le film, dès la première fois, tu sais comment ça va finir. Enfin, moi, je sais, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, trop bien.
Ouais, sauf que moi, j'ai pas compris pourquoi c'était pas Depardieu dans la télé, quoi.
Un macouille.
Parce que t'es français.
Bah, ouais, mais c'est lui, Monte Cristo, c'est Depardieu.
On n'est pas bien, la macouille.
Dans les films de José Dayan, quoi.
La violence peut être utilisée pour le bien. On en parle beaucoup de nos jours.
Oui.
Est-ce qu'il faut vraiment que le peuple s'énerve pour qu'on se fasse entendre, tu vois?
Bah, c'est une grosse...
Surtout contre la police.
Ouais. Ça, c'est une des grosses bases de l'anarchie. Quand
Black
même,
Lives Matter.
Ça, pour le coup, c'est ce que nie le film. Moi, je trouve que c'est un des péchés, entre guillemets, du film. Parce que, justement, l'anarchisme, c'est violent. C'est
obligé.
Genre l'insurrection... va mener au grand soir, on va faire table rase du passé, et bam, on crée une société nouvelle. Là, t'as Nathalie Portman qui est dans le métro, le flic arrive, Finch arrive, et elle lui dit non, faut pas le faire. Et elle lui dit si, c'est le moment. Elle appuie sur la manivelle, le métro, il part, et là, genre, tu vois tout qui défile. Tout d'un coup, tous les Anonymous, on va les appeler.
Ouais, et même eux, ils se font pas tirer dessus et tout.
Mais ils sont... Genre, on dirait une marche de Gandhi, en fait. Il marche tout doucement, genre bien rangé. Il n'y a aucun débordement. Enfin, là, on a quand même vécu les gilets jaunes. On a vécu les manifestations pour George Floyd.
Ils en montrent
très bien
à
que
ce
n'est pas possible.
À la télé, ils en montrent quelques-unes.
Ouais, ils montrent des images d'archives, mais c'est genre la période, c'est la période qui mène à ça, quoi.
C'est juste pas possible qu'il y ait une révolution comme ça, parce que tu as tellement de choses en toi que...
Ouais, ouais.
Et là, tout se passe tout doucement. Le grand soir... Le point culminant du film, c'est une révolution pacifiste.
Et dans la BD, je me souviens pas de la dernière partie. Je suis pas arrivé jusque là dans ma relecture. Justement, j'ai vraiment eu du mal. Et je suis pas arrivé jusqu'à la fin de la BD dans ma relecture là pour le podcast. Et donc je me souviens pas exactement de la fin exacte de comment ça se passe, quoi. si c'est aussi violent ou si c'est calme, pareil ou...
C'est calme, je crois. Ouais.
Il n'y a pas de révolution à la fin de
non,
la BD.
C'est ça, ouais, c'est ça que j'étais en train de me dire. Il y a pas, c'est pas aussi simple en fait.
Oui, c'est
ça,
mais voilà,
pas...
parce que moi, je,
à la fin de la BD, tu ne sais pas. Tu penses que l'ordre ne va pas s'arrêter.
En fait, il commence là, le feu, tu vois, ouais. Il démarre le feu et ensuite ça s'arrête là, quoi. C'est
mais
genre...
ça va avec ce qu'on disait il y a genre 10 minutes sur le côté dans le film. Ça commence le 5 novembre.
Ouais,
2015
ouais.
Et ça finit 5 novembre 2016 alors que dans la BD on ne sait pas quand ça avait commencé et on ne sait pas quand ça va finir. C'est beaucoup plus intemporel en fait la BD.
Ouais. Bah surtout si ça a été édité sur plusieurs années, j'imagine qu'ils peuvent pas ouais.
Les parents d'Ivy étaient des anarchistes.
Ouais.
Donc ça fait plaisir.
Ouais, suite à un drame
si la famille.
Ouais, c'est ça, suite à la mort du frère et tout, c'est un peu.
En même temps, la police enquête sur la prison de Larkhill. Qui est vraiment pas une prison, ça fait partie maintenant des prisons un peu fictives où tu te dis j'aimerais pas y aller.
Non, c'est clair. Mais pour le coup,
c'est clairement un
camp
de concentration. Quoi.
Oui, oui, c'est un camp de, bah c'est un camp de concentration.
Voire d'extermination.
Des... Ouais, ils faisaient des tests, je crois, plus qu'autre chose. Enfin, ils faisaient des
tests.
Et
en plus, il y avait Joseph Mengele là-dedans. En fait, tu te dis, enfin, c'est ça, quoi. Il y avait une sorte de Joseph Mengele qui faisait des tests
ouais,
bizarres,
ouais,
et des trucs
dégueulasses.
Ouais, voilà.
Mais.
Bah, c'est la.
La
médecin,
c'est la médecin légiste, ouais.
Qui se fait arrêter.
Ouais.
C'est elle hein, qui faisait les tests.
Et le gentil
après, elle dit, mais genre, j'étais pas au courant. Mais
bah,
en fait,
pour le coup, dans la BD, on a son... Dans le film aussi, on a son journal intime.
Oui.
Et c'est vrai que c'est beaucoup plus clair dans la BD qu'en fait, ils essayaient de créer des... Enfin, de voir comment des gens réagissaient à des armes bactériologiques. Enfin, c'était vraiment
gros,
crado, quoi.
En gros, ils disent, genre, on essaie de faire une bombe atomique sur l'être humain.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Et on voit qui est-ce qui survit. Et en fait, il n'y a que V qui survit à ça. Il y en a, dans la BD, ils parlent de genre un mec qui a genre 5 seins qui lui sont poussés.
Ouais,
enfin,
c'est
des mutations génétiques hallucinantes. Et
faut s'arrêter à 4 maximum.
Ouais. Enfin.
Le visage de V, il est devenu atroce à regarder. On ne le voit pas, mais elle en parle en fait.
Ouais. Ouais, mais exactement. Ça, c'est. Je me demande d'ailleurs si. Ah putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Désolé. Ah si, je voulais dire que le flic, il enquête sur tout ça et je trouve que son enquête, elle est.
Plan-plan.
Hyper mou du genou, quoi. Ouais,
c'est un peu plan-plan. C'est Derrick, hein.
C'est vraiment.
Non, wow. Mais c'est vrai, c'est.
Je chope une info, je vais parler
alors,
à un mec.
Une dernière chose.
Non, mais.
Comme disait ma femme,
ouais.
Limite, il va te sortir des trucs comme ça, quoi. C'est vrai qu'en plus, je sais pas, l'acteur, il est pas...
Ouais, il dégage rien. Enfin,
ouais,
tu te sens totalement pas impliqué dans ce qu'il... Dans...
Il est mou, quoi.
Ouais, tu sais pas si... Tu sais pas s'il est convaincu par le gouvernement.
Il a un côté Fillon mélangé avec Hollande, tu vois. Une sorte
ouais,
de...
ouais. Flambi royal, quoi. Vraiment,
ouais, voilà. Ivy est envoyée chez le bichotte pédophile habillé en écolière.
Je pense que c'est la scène la plus marquante, parce qu'elle est quand même vraiment dégueu, quoi.
Elle est dégueu, ouais. Je dirais pas que c'est la plus marquante non plus parce que les speeches de V ils sont quand même
ouais.
Tellement
j'avoue que celle-là d'avoir ça c'est rare
scène...
de voir un pédophile à ce point-là incarné et tout.
La scène où il dit le peuple ne devrait pas avoir peur de son gouvernement, le gouvernement devrait avoir peur de son peuple, c'est genre la scène la plus connue.
Oui, oui.
Ça.
Ouais.
C'est vrai.
Après récemment on a vu Grâce à Dieu donc du coup.
Oui mais.
En le revoyant tu vois genre je me suis dit oh c'est soft. Enfin.
Bah parce que
ouais,
c'était réel quoi. Mais c'est vrai
si
que le mec quand il dit elle est un peu plus vieille que un peu plus âgée que convenu et le mec le regarde il dit pas trop âgé quand même. Horrible, enfin vraiment tu sens que
ça aurait enfin ils ont choisi une actrice qui en plus fait jeune encore maintenant, je suis sûr que tu la déguises comme ça, t'as l'impression qu'elle a 14 ans quoi.
Ouais.
Donc ça aurait pas fonctionné, ça fonctionne avec Nathalie Portman.
De justesse, hein, parce que enfin je veux dire, c'est vrai que elle fait quand même pas.
Non,
gamine,
bah non,
quoi,
bien sûr, non. Mais t'as vu comme elle est maquillée avec les joues
ouais,
rouges
ouais.
Et tout. C'est...
Parce que dans la BD, vu qu'elle a 16 ans, bon, bah, limite, elle est déjà.
C'est ouais,
déjà,
c'est vrai, elle est
déjà
assez
enfant,
jeune, quoi. Alors que là, j'imagine qu'elle doit avoir quel âge.
Quasi 27, un truc comme ça.
Ouais, hein. Ouais, elle doit déjà être. Ouais.
Donc c'est vrai qu'elle fait. Là, t'as l'impression plus que c'est un fétiche qu'autre chose, quoi. Mais.
Tiens, Nathalie Portman qui a
oui,
comparé ce film à Léon, tiens.
Ouais.
En disant que sa relation avec V lui faisait vachement penser à
ah oui,
la relation entre Léon
ouais.
Et.
Ouais,
et
c'est un peu moins fort, je trouve, mais oui,
ouais.
Mais il y a de ça, oui.
Puis c'est un peu moins problématique. Elle est déjà adulte, donc au moins, il n'y a pas de problème.
Ah oui, non, mais c'est ça, la grosse nuance, c'est quand même que dans le film, là, vraiment, elle est en mode. c'est mon occasion de me barrer de ce kidnappeur qui m'enferme chez lui.
Mais complètement, en fait.
Alors que dans la BD, c'est pas aller totalement dans le plan. Et,
pendant une grosse majorité du film, c'est une victime kidnappée par un mec avec un masque qui lui sort des citations et qui la force à regarder des vieux films de KPDP.
Et tu te dis, mais même pendant
mais
tout le film.
Ça permet le premier twist parce que du coup, t'as la, fin, comme juste avant qu'elle aille chez le pédophile, elle était en train de nettoyer une espèce de miroir où il y avait une inscription latine. Et elle lui dit « Je veux t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et donc, du coup, après, quand on la voit déguisée en petite fille, on se dit « Ah, bah tiens, elle va l'aider. » Et quand elle commence à lui dire « Il y a quelqu'un qui va passer par la fenêtre. Je suis innocente, s'il vous plaît, aidez-moi et tout. » On a vraiment l'impression qu'elle joue un jeu, tu vois. On se dit « Ça fait partie du plan. »
Et l'autre pervers qui est tellement...
Et après, V arrive, on se dit, bon, bah, ça fait partie du plan et tout. Elle s'enfuit, on se dit qu'ils ont convenu d'un rendez-vous.
Voilà, non, moi, le texte, pour le coup, si tu...
Ah, moi, j'étais vraiment persuadée. Et après, elle va chez Gordon. Et tu fais, ah, donc, du coup, en fait, non. Et alors, et là, Gordon lui ressort exactement les mêmes phrases que
ça,
V lui avait donné.
C'est une drôle de coïncidence, en fait.
Mais c'est pas possible que ce soit une coïncidence.
Non,
dans
mais
ce
ça,
film,
c'est un écho dans le scénar pour dire, regardez, ces deux personnages, ils sont tellement similaires. C'est un peu
et
son
cache,
V.
Il cache des choses.
Il fait la blague d'ailleurs.
Ouais, voilà.
Il dit, je suis V, c'est moi V. Tu
oui, et
entre
il,
nous,
il,
si c'était Stephen Fry,
il fait
1m95 ou un truc comme ça, elle l'aurait remarqué à la taille en fait déjà. Il est vraiment super grand.
Non, mais en plus,
il lui prépare le même repas. Le
oui,
petit
aussi,
déjeuner, il lui prépare exactement. C'est.
Ouais, le parallèle est troublant, mais c'est vrai
c'est
que...
C'est voulu, hein, mais c'est aussi pour mettre le doute dans l'esprit du spectateur, bien sûr.
Ouais, mais c'est pas
vrai. Le truc, c'est qu'on voit quand même ses mains brûler un peu plus tôt à V. On voit bien qu'il y a un truc quand même qui doit pas être...
Ouais, ça marche
c'est
pas.
C'est impossible qu'il ait un visage normal, en fait, on se dit pendant
ouais, mais ça quoi. Permet ce côté... à un moment, je sais plus quel personnage dit... Ben si, c'est le flic qui dit on en fait tous partie. We're all part of it. On est piégé,
oui, bien sûr, mais
on est tous dans la maille.
Moi, je le trouve ultra, ultra balourd, quoi. Franchement, entre les deux, là, il est trop forcé. En fait, si c'est ce que tu dis, ou ça veut te faire croire que ça peut être lui, et tu crois vraiment au premier degré, ça fonctionne pas du tout, quoi. Enfin, jamais tu peux te dire, mais en fait, c'est lui.
Non, c'est aussi, moi, comme je disais, c'est aussi pour faire le parallèle entre les deux personnages dans l'esprit des. Pour dire, c'est un gentil. Tout
oui, c'est ça. Oui,
c'est
voilà.
Vraiment tout
c'est
con.
C'est logique,
c'est
balourd.
Simplement
quoi.
Pour dire, regardez, c'est un gentil, il est comme V. Voilà.
Ouais, ouais. Même moi, pour le coup, je trouve que dès qu'elle dit il y a un mec qui va venir vous tuer et tout, tu comprends qu'elle assume pas le fait de DDV, quoi.
Ah non,
moi j'étais persuadé qu'elle voulait que ça faisait partie du plan.
Oui, dis donc.
C'est compliqué comme plan.
Ouais. Il est un peu. Pourquoi, quoi.
Juste pour le spectateur, juste pour faire chier le spectateur.
Je vais à la fenêtre, on va te tuer, mais je te précise avant, histoire de compliquer un peu la tâche, parce que sinon,
je te balance. Et... Ok. Après, je vais me cacher chez un pote. Toi, tu me kidnappes, tu m'enfermes pendant presque un an. Ouais, vas-y, on fait ça.
Le côté, genre, tu vas voir ta mort venir, je te préviens tout.
Oui, mais elle l'aurait pas dit comme ça. Enfin, je veux dire, là, tu sens qu'elle le dit en mode sauvez-moi, elle le dit pas en mode ah, tu vas mourir.
Je me dis très bonne comédienne.
Est-ce qu'on a un truc à dire sur la mort de la botanique / médecin légiste.
Bah, c'est elle qui nous raconte toute la backstory de l'Arkil qui reste un peu nébuleuse. Et en fait, si on comprend le délire, c'est que c'est eux qui ont créé le virus qui va être propagé et qui va permettre au fascisme de vraiment avoir une assise.
Là, ça ajoute une sorte de degré. Ah, vous pensez que les fachos, ils sont pas méchants? Bah, regardez comme ils sont encore plus méchants.
Ouais.
Et là, tu te dis, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? On en était déjà à des mecs qui ont des camps de concentration.
Surtout, ce que je comprends pas, c'est que y a une erreur de temporalité, parce que théoriquement ils arrivent au pouvoir grâce au virus, enfin tu vois, au côté là, si tu dis, et à la fois quand ils font tout ça, t'as l'impression qu'ils ont déjà au pouvoir parce que ils sont
ministres.
Oui, mais il y a une espèce d'énorme parallèle avec justement le nazisme où Hitler dès les années 30 il est chancelier, donc du coup il a pas mal de pouvoir,
la nuit cristal,
et il se débrouille pour faire brûler le parlement et tout, et après il fait accuser des gens et du coup ça lui permet de monter, enfin il a déjà pas mal de pouvoir, mais grâce à ce pouvoir qu'il a, il fait accuser d'autres personnes et après il monte encore plus haut, et il y a le totalitarisme, enfin après tu retrouves la même chose dans les sociétés dans la société d'aujourd'hui, où les gens vont te dire Macron, il a pas mal de pouvoir, mais s'il fait voter une loi en 49-3, ben, tout d'un coup, il a beaucoup plus faim. C'est parce qu'il est déjà en haut qu'il peut avoir encore plus.
Ouais, et puis c'est comme il y a des gens qui vont te sortir les attentats qu'il y a eu en France, c'était un coup monté parce que le gouvernement voulait garder le pouvoir ou avoir plus de pouvoir, voulait faire passer ses lois. quand on voit la réponse des Français à chaque fois qu'il y a une loi qui est presque passée, on se dit non, ça a pas dû vraiment marcher. Hein, parce que
mais même nous, on se laisse pas même faire, la pandémie, hein,
t'as s'il y a bien un truc qu'on peut dire sur le peuple français, c'est qu'on se laisse pas faire. À ce
ouais,
niveau-là.
Mais bon, comme mais... douce mine de rien, on a du mal à résister hein, récemment.
Ouais, récemment
même la pandémie, t'as eu des théories du complot, des gens qui disaient
oui,
le coronavirus, ça n'existe pas, c'est pour faire passer la loi des retraites, le ceci et tout.
Oui.
Bon, après,
c'est dans le monde entier, c'est juste
si
pour
c'est
faire passer
la loi
des
complot,
retraites.
Si c'est une théorie du complot, ils étaient super balèzes.
Ouais,
pour
c'est
s'entendre
le...
avec les Russes, avec les Chinois, les Américains, moi je trouve ça super balèze.
C'est tombé, ouais. On n'arrive pas à se mettre d'accord pour les droits de diffusion d'un film, mais par contre, on peut se mettre d'accord pour...
Donc ouais, VH, c'est le seul à avoir survécu, comme on a dit tout à l'heure. Et le jour du 5 novembre, tout a explosé, sauf lui qui s'en est sorti et qui sort de son truc à poil en feu et qui hurle « Drago !» c'est une de mes scènes préférées de l'histoire du cinéma. Non, tu t'en rappelles pas ?
Drago ?
Dans Rocky 4.
Ah,
ah voilà, ça vient là.
Okay. Non, mais j'étais sur Game of Thrones. Là, parce
ah non,
il y a,
non,
y a aussi une meuf qui sort du feu avec des dragons.
Ah oui, c'est vrai. Ouais,
je me disais, ouais, elle gueule dragon, quoi, elle sort du feu, Daenerys.
Ce serait plutôt Drogo.
Ouais, ouais. Drogo. C'est ça. Mais oui, cette scène, elle est plutôt, voilà, ça fait vraiment ce comic book, quoi, super-héros un peu.
Ouais, mais
story,
complètement, c'est une origin story de super-héros.
Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il le traite comme ça hein, dans le film. C'est peut-être finalement un angle qui est. Ouais, qui était plutôt intéressant pour rendre le truc efficace, quoi, mais qui forcément
amoindrit le message,
ouais, amoindrit la profondeur de tout ce que l'œuvre peut constituer. Mais
il
après...
faut toujours que déjà il faut toujours qu'on t'explique tout. Ça, c'est un problème. J'aime bien, moi, le mystère dans les films de temps en temps.
Bah, c'est ce qui est fort en BD. Hein. Moi, je trouve que les BD, tu vois, on parle de... enfin, voilà, par exemple, From Hell, tu prends la BD et tu prends le film, mais c'est genre, t'as
l'impression... bien la BD.
La BD, elle est...
La BD est géniale, j'ai pas vu le film, mais la BD est géniale.
Mais elle est ultra atypique, enfin, je veux dire, la BD, c'est un bordel pour s'y retrouver, c'est vraiment... t'as l'impression par moment de devoir être...
Watchmen, c'est pas facile à lire non plus.
Ouais, bah voilà, comparé à Watchmen, mais... Cromwell, c'est encore plus alambiqué, mais pour le coup, t'en ressors une...
Ou Providence, c'est vrai que t'es obligé de la lire d'une traite, déjà... Et en plus, quand tu la lis, t'es obligé de retourner en arrière. Attends, mais là, je suis pas sûre. En fait, maintenant que je lis ça, je me rends compte que ça, je l'avais pas vrai. Je pensais avoir compris.
Et c'est parce qu'ils se contentent pas de faire.
Pensé,
Non, mais c'est parce qu'ils se contentent pas de faire juste un genre, tu vois. Alors que Fromel, c'est une vulgaire enquête policière à 2.6 avec un perso un peu torturé. Et voilà. Et au final,
c'est
t'as
sur
rien,
Jack Léventre.
Ouais. Et au final, t'as rien de particulièrement marquant
dans le
dedans.
Film. Ils disent que c'est Bilbo
le
qui est
médecin du de la
c'est
reine,
Bilbo,
ouais,
qui est décédé il y a pas longtemps d'ailleurs.
Ouais, c'est ça.
Rest in peace, Bilbo.
Ouais, Ian Holmes.
Alors que dans la BD, il y a pas de vrai
frère de Francis.
Oh, c'est beau.
C'est comme pour V pour Vendetta. En fait, ça fait partie des trucs qui sont très beaux chez Alan Moore, c'est que il te laisse en fait une espèce de porte ouverte. Tu sais jamais vraiment qui est
Alan Moore, c'est ça quoi.
Et tu sais jamais vraiment qui est Jack l'Éventreur. Enfin, t'as plein de pistes, mais
c'est le David Lynch des comics. Voilà.
Il y a un peu de ça. Hein. C'est vrai qu'il a un peu cette espèce de côté flottant où tu sais jamais vraiment sur. Bah, tu vois, enfin Watchmen, t'as des gens. 30 ans après, on est encore à débattre si Rorschach, finalement, c'était. Tu vois, quel message en tirer.
Quel
vois,
message
des,
en tirer.
Des
ouais.
trucs comme ça.
Et ils te font une série entière là-dessus maintenant. Quoi.
Ouais. Donc. Exactement. Et tu vois, c'est pareil pour La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Enfin, le film comparé à BD, c'est, t'as l'impression de lire un album pour enfants. Quoi.
En fait, il y a plein de BD qui existent en film.
Enfants,
film.
Oui, tous.
Ah oui,
il a quasiment.
Presque toutes.
Toutes les grosses ont été adaptées, quoi. Même ouais. Killing Joke, ça. Enfin bon.
Ouais. ne parlons pas de choses qui fâchent.
Stephen Fry se moque du gouvernement à la télé dans une scène qui est par moments sympa, tu te dis ouais ok, et par moments tu... Enfin, elle dure un peu trop long.
Les Américains qui veulent faire un show à la Bénil en mode
mais,
regardez,
à l'anglaise, ouais, ils essaient de se la jouer, voilà l'humour anglais ce que c'est, et tu te dis
ça
va beaucoup trop loin, et en plus genre tu te dis pourquoi le mec se tire une balle dans le pied.
Ouais, c'est très
étrange. En plus, à un moment où il a une réfugiée chez lui, donc
et
du
non,
coup,
en
il
plus,
la
il
met
dit,
en
ouais,
danger.
C'est bon, mon agent, il va me protéger. Il en a rien à foutre, il comprend pas du tout.
C'est. Mais non, mais enfin, si son agent va le protéger, si vraiment il le croit, du coup, ça décrédibilise ce gouvernement qui nous fait peur au départ.
Ouais, c'est super bizarre cette scène. Moi, je la comprends pas.
Cette scène est super étrange. Enfin.
Non, mais en plus, t'as le côté genre.
Pas dans la BD, on est d'accord.
Ah non, il y a rien du tout de ça dans la BD. Non, mais c'est super bizarre parce qu'il y a le côté genre. Non, mais on a changé le script le jour du tournage et tout. Oui, enfin. tu fais ça sur un plateau de télé.
Où est-ce que tu trouves les deux sosies du. Ouais. Qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à John Hurt, qui sont pas du tout joués par John Hurt.
Non.
Non, mais c'est marrant, le mec, il vit. Encore s'ils avaient mis un sosie avec un faux bouc, etc. Non, mais là, c'est... non, c'est John Hurt. Il y a, ouais. Deux John Hurt dans la scène.
Il y a un moment dans cette émission que j'aime beaucoup, c'est quand il y a le plan où tu le vois. Les panneaux pour dire applaudir.
Ouais, okay.
Et il y a les
voilà,
mitraillettes.
Ça, c'est sympa.
Plan, je l'adore.
Il y a 2-3 trucs au début qui sont sympas. Le fait que V il se cache derrière en faisant des drôles de trucs, ça, c'est sympa, tu vois. Mais c'est trop long.
Moi, j'arrive pas à croire. En fait, ouais, ça décrédibilise tout le. Ouais, moi, j'arrive pas à croire qu'un gouvernement fasciste peut réussir à laisser ça être diffusé. Parce que c'est même pas en direct en plus. C'est-à-dire que le mec, il est devant la télé pendant qu'il le regarde. Donc, c'est. Enfin, tu t'y crois pas, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Enfin, moi, perso. Et ça décrédibilise en fait tout le côté fascisant du film, quoi. C'est super dommage.
Ouais, et tu sais, c'est. Tu sais, on se moque souvent des films Marvel parce qu'ils veulent mettre de l'humour dès qu'il y a un truc tragique. Il se passe un truc triste et 2 secondes après, ils font ah, pouet, pouet.
Ouais.
Et là, c'est un peu ce qu'ils font dans ce film.
À ce moment-là.
Avec cette scène-là, ouais. Avec cette scène-là, c'est vraiment ce qu'ils font. Parce qu'en plus, ensuite, on a une scène tragique qui se fait enlever. Elle se fait enlever. Et là, on parle. Je me demande si, justement, comme on va partir dans du dark vraiment à fond, viens, on met une petite scène de Benny l'avant, histoire de faire rire les gens. Parce que après ça va être.
Ouais, mais par contre, là, ce qui est intéressant avec ce perso, malgré bon, ce truc qui sort de nulle part, pour le coup, et qui décrédibilise un peu le reste du film, c'est que pour le coup, je trouve que sa condition d'homosexuel, je la trouve vraiment bien incarnée, quoi. Enfin, tu sens le mec
Il est dans la vraie vie.
Ouais, voilà, mais voilà, tu sens que je pense que ça empêche pas d'être bien joué dans un autre cas. Mais en tout cas, tu vois vraiment le mec qui porte un masque et cette parallèle avec V aussi. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est ce rapport où en effet, quand l'État te demande de pas être quitté, bah tu portes un masque et tu agis au quotidien d'une manière qui est pas la tienne, quoi. Et c'est en voyant ce personnage, c'est ce qui manque un peu dans le reste du film, c'est comment les gens en fait s'accommodent de cet état fasciste, quoi. Parce que c'est vrai qu'à part lui, on voit personne subir les conséquences de cet état-là, quoi.
Ouais.
Et c'est ça qui est dommage, et qu'on voit beaucoup plus dans la BD de manière imminemment plus subtile que là où ça reste un ses pompiers, quoi.
Mmh.
Et mine de rien, je trouve que ça, quand tu le découvres, tu fais ah ouais, putain, c'est... Et après tout ce qui va suivre en plus va encore plus charger la mule sur les oppressions que les homosexuels vont subissent par cet état. C'est la première un peu première pierre à l'édifice, quoi.
Très bon rebondissement, Zoltan, parce qu'on a eu un petit problème technique entre deux phrases. Zoltan, il a réussi à faire le vrai professionnel, quoi. Tu devrais pas bosser à YouTube, tu devrais bosser sur France 2 ou France 3.
Mais... One day.
One day. On a la scène d'interrogation, Nathalie perd ses cheveux.
Bah, d'abord, attends, elle s'avait kidnappée. Hein,
oui, je l'ai dit déjà.
Mais non, justement, ça avait coupé. Ah elle s'est fait kidnapper par un mec qui a la même voix que Hugo Weaving.
Ah, ça c'est pas dit.
Okay. Non, c'est pas dit, ça.
Je vais essayer de me débrouiller dans le montage. Donc, plus de cheveux à Nathalie. Ça lui va très bien. S'il y a bien quelqu'un qui peut se permettre de se raser les cheveux, c'est Nathalie Portman.
Ça, c'était ce qui avait fait le plus parler à l'époque. Parce qu'elle était à la Cannes.
J'avais vu Star Wars épisode 3 au Festival de Cannes. Et elle était avec ses cheveux rasés. Et Samuel L. Jackson avait un Kangol. Voilà.
Et comme toujours, sans vie.
Je sais.
Mais ça m'a fait toujours marrer ce délire où le mec tout seul, il arrive à faire tout ça avec elle et elle s'en rend pas compte. En fait, c'est genre, ça reste un mec tout seul, quoi.
Ouais, parce qu'en plus, il dit prenez 5 hommes avec vous et allez la tuer derrière l'église ou je sais plus trop quoi. Et tu dis comment il va faire. Et c'est là que tu te dis attention, il a une carte spéciale, c'est que c'est l'agent Smith.
Il peut se dédoubler.
Il peut se dédoubler. Non, pas se dédoubler, il peut posséder les gens.
Ouais.
comme un virus.
J'avais pas pensé à ça.
Et oui.
Dans la BD, il met des. Bah, là aussi, il y a un.
Ouais,
il
y en a.
De mannequin. Mais dans la BD, c'est encore plus ostentatoire. Avant, c'est le mec, il s'est créé toute une espèce de labyrinthe avec des trucs qui pop, avec des mecs qui ont des micros sur le. Posé sur leur. Enfin, des mannequins qui ont des micros où il peut parler et tout. Et toi, tu voulais dire, mais ça a été coupé, donc peut-être que ça vaut le coup que tu le redises, mais que je trouve que pour le coup, dans le film, ce kidnapping et ce fait de la faire aller, enfin, de la faire subir tout ça, je trouve pas que ce soit très bien amené. Et t'avais un truc à dire dessus, justement. Bah, tu disais que dans le film.
Moi, j'ai un truc à dire.
BD, ça paraissait, dans le film, ça paraissait beaucoup plus comme une espèce de vengeance de faire du film.
Ah, ça.
Le truc, oui.
Ouais, monsieur.
Non, je rigole. Rattacher les wagons, quoi.
Non, je disais que, ouais, dans la BD, t'as un côté. Mais dans en fait, toute la BD, de parcours d'initiation. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression qu'il lui enseigne à apprendre à perdre sa peur. Alors que là, il y a une phrase de V qui dit « Maintenant que tu n'as plus peur de perdre la vie, eh ben, t'es devenue plus forte, t'as la liberté. » Et alors que tu le vis, parce qu'il y a la voix de V que tu reconnais tout de suite et tout, et tu le vis plus comme une vengeance, en fait. Genre, moi, j'ai vécu des choses atroces. On m'a mis dans un... On m'a rasé la tête, on m'a fait des piqûres, on m'a posé des questions, on m'a torturé et tout. Et maintenant, tu vas vivre la même chose et ça fait plus vengeance. Et je te refais vivre toute la même chose. Je te fais revivre, genre, la seule chose qui m'a fait survivre, c'était d'avoir un petit rouleau de PQ sur lequel ma partenaire de cellule, enfin, ma voisine de cellule, me raconter sa vie, enfin, il lui fait revivre ce qu'il a vécu. Donc il y a vraiment plus du transfert que de l'enseignement, en fait, dans ça.
Ouais, c'est vrai, il y a définitivement du transfert, mais en fait, je pense pas que ce soit que du transfert. J'ai aussi l'impression qu'il veut lui dire voici ce que tes parents ont vécu, voici ce que ton frère a vécu, voici, c'est pas que lui, en fait. Mm-hmm. C'est aussi voici ce que Valérie a vécu. C'est que toi, mm-hmm. c'est que toi, si vraiment tu veux nous aider dans la cause, il faut que tu sois prête à vivre un truc comme ça.
Mais justement, elle ne voulait pas.
Parce que je pense que lui...
Elle s'était enfuie, elle était partie.
C'est vrai.
Et c'est pour ça que tu as vraiment l'impression que c'est une punition, parce qu'elle s'enfuit, donc elle le trahit, elle va se réfugier chez quelqu'un, et quand il la récupère, il la torture.
Ouais, mais
donc
en fait,
c'est pour ça qu'il y a vraiment un côté vengeance,
bah, il la torture,
enfin, ressenti.
Ouais, ça se comprend parce qu'il lui fait...
Il se donne une justification.
Chez les mecs, quoi qu'il arrive, en fait.
Mais on n'en est pas sûr.
Oui, bien sûr. Non,
mais c'est ce que V dit. Mais moi, je trouve que c'est plus de l'ordre de la justification. Enfin, dans le film, c'est plus une justification. C'est, tu vois, les gens ont vécu ça, la vie, c'est dur. Et ben, du coup, je te montre à quel point
c'est
dur.
Dans la BD, c'est hyper nébuleux le moment où elle se fait... Enfin, moi, j'ai eu vachement de mal à raccrocher les wagons parce que il la lâche dans la rue à un moment. Au milieu d'une rue, après tu zappes, tu passes sur. Elle vit avec un mec, enfin il y a toute une histoire parallèle, et après, d'un coup d'un seul, elle se retrouve avec un flingue devant le nouveau ministre, là, enfin celui qui est dans le film est toujours là, comment il s'appelle, celui dont tu connais le nom et pas moi. Le nouveau, le patron de la police, quoi, enfin le patron des.
Ah,
Finch.
Non, l'autre justement.
Ah, merde,
Cléry, Clerky.
Ouais,
Creedy, voilà. Elle se retrouve devant Creedy, elle allait pour le tuer, mais tu sais pas trop pourquoi. Et c'est là où il la capture et qui lui fait subir tout ça, quoi. Et c'est assez décousu, donc c'est assez dur à choper.
Bah, c'est voulu.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que dans le film, c'est beaucoup plus c'est limpide, quoi.
Dans la BD, justement, c'est en ça que je trouve qu'il y a un côté parcours. C'est elle a envie, tu vois. Genre, elle se dit non. Elle conçoit, puisqu'elle a vécu avec le mec et tout, elle conçoit toutes les horreurs que les gens vivent. Et donc, du coup, elle se dit allez, je vais le tuer. Et une fois qu'elle est devant lui, elle se dit non, mais en fait, c'est un être humain. Comme tu peux avoir des révolutionnaires qui se disent « je vais faire », et puis finalement, une fois devant le fait accompli, ils n'y arrivent pas. Enfin, tu as une pièce de Camus qui s'appelle « Les Justes », qui est super là-dessus. Mmh. Donc c'est une bande de révolutionnaires qui préparent un attentat depuis des semaines ou des mois. Et le jour de l'attentat, dans la calèche du tsar, il y a des enfants. Et il y en a un
mais c'est comme dans Scarface.
Je peux pas tirer sur des enfants. Et en fait, c'est ce côté, c'est ce qui fait de nous des humains. On a beau avoir des idées, on n'est pas des robots, en fait. L'affect peut venir au dernier moment.
C'est marrant, j'ai regardé Scarface hier. Je ne sais pas pourquoi, je m'ennuyais.
Parce qu'il est de retour sur Netflix.
Voilà, je m'ennuyais, je fais, allez, c'est parti. Et Tony Montana, qui est une des pires ordures. Là, en revoyant le film, c'est vraiment la pire des ordures de merde du début du film à la fin. C'est pas genre, ah non, il devient une ordure avec le temps. Non, c'est vraiment une petite merde.
On va le revoir.
Et le seul truc qu'il dit, c'est qu'à un moment, il doit faire sauter une voiture.
Oui, c'est ça.
Et il y a des enfants dedans, et donc il veut pas le faire. Donc tu vois, ça revient de.
Brian De Palma avait lu Camus. Et Camus.
Ah bah sûrement, De Palma, oui, ah ouais. Ce serait bien son genre.
Et après, ouais, vous en pensez quoi, vous, de l'histoire de Nathalie, toute cette.
Valérie.
Je trouve que ça aurait mérité son propre film. Mm. C'est qu'il pourrait très bien y avoir un film sur Valérie avec l'univers de V pour Vendetta. Il y a des trucs à raconter.
Dans le film, c'est
il y a une belle histoire d'amour tragique.
Moi, ce que j'ai bien aimé dans l'histoire de Valérie, c'est que ça répond en fait à l'histoire de Gordon. Mm-hmm. L'histoire de Gordon, c'est juste genre, il t'explique j'avais quelqu'un, j'ai dû, on me l'a enlevé et tout, genre je vis avec un masque comme tu l'as dit et tout. Et après, le fait que ça soit redit donc du côté féminin, mais en fait, elle a vécu exactement la même chose. Et c'est plus amplifié. Donc du coup, enfin, je trouve que justement, enfin, ça participe de cette défense des opprimés et en particulier ici des homosexuels. Enfin.
Je la trouve très très touchante cette histoire. À chaque fois que je la regarde, ça me presque chiale quoi. Alors que je l'ai vu plein de fois ce film. Je trouve que la manière dont c'est raconté, il y a un truc quoi. Je l'aime beaucoup ce moment. Ouais. C'est peut-être mon moment préféré du film, je pense.
Ouais, je pense aussi. Ouais.
Et donc, gros plot twist, en fait, c'était Hugo Weaving, le mec avec la voix d'Hugo Weaving. Ivy est enfin prête à mourir pour la cause. Donc, V a réussi, sacré V. J'ai juste noté sacré V parce qu'il fait l'air de rien après quand elle se pointe. Salut.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ça sert à rien après, en fait. Enfin, je veux dire, dans le film,
elle
lui permet prendre de risques, quoi.
Bah si, elle fait sauter Big Ben quand même. Mais...
Oui, mais je veux dire, t'as l'impression que ça, elle l'aurait pu le faire avant. C'est pas en lien
non,
avec
Non, ça se voit dans le film qu'avant, elle était pas prête.
Oui, oui, mais elle était même... Enfin, avant, elle s'en foutait,
elle est prête
quoi.
À aller se battre.
Oui.
Elle est prête à mourir pour la cause. Elle aurait pu très bien partir dans le train et mourir. Ça aurait été une très belle fin pour elle aussi.
Oui, voilà. Ça aurait déjà été plus... Enfin, ce côté
une
où...
fin plus romantique où elle meurt avec V dans le... Dans
bah,
le
j'avoue que ça m'aurait...
Plutôt que de dire à Finch, est-ce que t'aimes bien la musique, pour dire, ah, Finch, ça va être le nouveau... tu sais, genre, en fait, on est en train de former des gens. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir un flic comme futur.
Mais moi, j'aime pas la fin. Ouais. Je trouve que ça aurait dû s'arrêter, ouais, quand elle dit « It's time ». Ça aurait dû être le dernier mot.
Bon, gardons-le pour la fin, justement. Parce que Ivy s'en va, les flics rencontrent V déguisé en hobo, qui leur raconte tout sur l'Arkhill.
C'est tellement, tellement nul.
Là encore, on voit encore c'est Hugo Weaving avec une barbichette.
C'est clair.
Là, on le voit beaucoup plus, je trouve.
Oui, là, c'est quand même Hugo Weaving avec une barbichette. Hein. Et donc, il y a un gros complot. On apprend que c'est donc le gouvernement qui fait tout péter, blablabla.
Les flics se font balader.
Et moi, je propose une motion de censure contre le chancelier Valorum.
Contre quoi?
Contre le chancelier Valorum. Ah, oui. Voilà. Non, parce que ça parlait de censure et de chancelier. Et en fait, j'ai eu cette phrase qui m'est sortie de Nathalie Portman, qui dit dans l'épisode 1, je voudrais faire une motion de censure à l'encontre de Valorum.
Tout vient de ça. Hein.
Et voilà, tout est lié, tout est connecté. C'est le Nathalie Cinematic Universe.
Ouais, c'est clair.
Elle fait quoi, Nathalie?
Là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Hein.
Non, elle était dans le film chelou sur Netflix.
Oui, Annihilation,
ouais.
Ouais,
c'est peut-être la dernière fois que je l'ai vue.
Et elle était dans un film qui est pas sorti, mais qui a, ce qui paraît, pas mal d'un mec. Bah, c'est, merci.
Oui, ouais, dans Jane dans l'espace, là, ou je
sais
exactement, plus
trop quoi. Ouais,
voilà, c'est pas sorti, ça ?
C'est sorti, mais pas en France.
Ah, ok.
Et ça, c'est, bah, voilà, c'est... Au final, on n'a pas de nouvelles de ce film.
Ouais, de Nathalie post-Oscar, j'ai l'impression qu'elle a un peu pris sa retraite pendant quelques temps.
Oui, c'est ça. Bah, je crois qu'elle a eu
fait
un enfant.
Fait ses gosses et tout, ouais, voilà.
Ouais. C'est... Bon. Mais je vais regarder vite fait...
V veut utiliser Creedy contre le chancelier. Donc il y a tout un délire comme quoi. Parce que Creedy, c'est un peu le cerveau derrière tout ça. C'est lui qui avait même proposé le virus. C'était son idée, le virus. Donc,
ah, ça, c'est rapide hein, pour réussir à conclure ce truc. Aussi, c'est une idée, ça va vite.
Ouais,
hein,
tu sens qu'il fallait que le film dure pas trop longtemps et il se dit bon, allez, on va faire les méchants se battre entre eux.
Il joue au domino.
Ça sera plus facile.
Il joue au domino, il donne des masques à tout le monde. Elle est sympa, cette petite scène du domino, parce que ça, c'est toujours cool. C'est toujours classe. Là, il y en avait... On sent qu'apparemment, ils ont bossé, pour, je sais pas, 180 heures ou un truc comme ça pour le faire.
D'accord.
Ouais.
Et à la fin, j'arrive pas
et genre, ils avaient trois professionnels des dominos sur le coup. Quoi.
Voilà. Et vous pouvez m'expliquer la symbolique du domino qui bloque?
Il manque un seul petit détail pour que tout soit parfait.
Je sais. Ouais. Non, mais
on dirait
je
que c'est un petit truc comme ça.
Ouais,
c'est
ouais,
genre le petit
faire,
truc qui fait que ce n'est
pour
pas
moi,
parfait
Olivier,
au final.
C'est que une personne peut faire la différence.
Ah aussi, c'est vrai. Ils tombent tous, mais il en reste un debout. Donc, ouais, ça peut aussi vouloir dire ça.
Ouais.
Non, mais
bah, en fait, il n'y a pas de lien avec ce qui se passe dans le film, plus que
non,
ça.
Non. C'est juste beau des dominos qui tombent et ensuite l'image du fait que ah en fait toi tu vas mourir, voilà.
Ouais.
C'est peut-être
et
ça en fait du foreshadowing.
À la fin, quand elle retrouve son, quand elle met son corps dans le métro, il y a le domino.
Ah.
Ah oui, c'est vrai qu'elle le pose, je crois.
D'accord.
Ouais, ouais. Là, moi, j'aime bien cette séquence parce que ça résonnait beaucoup avec l'actualité, mais cette espèce de montée de la révolte, quoi.
Ouais, quand la petite fille se fait tuer, il y a tous les gens qui entourent le flic comme ça, et tu te dis enfin.
Ouais. Non, mais là, voilà.
Non, parce que le peuple, ils font pas grand chose depuis le début, putain.
Bah ouais, c'est ça. Et là, c'est vrai qu'au moins, ça a le mérite de résonner avec l'actualité pas mal.
Une petite fille blanche est morte. Il faut vraiment qu'on réagisse là. Là, c'est plus possible. On n'a rien dit quand c'était les juifs.
Mais là, quand même, faut pas déconner. En plus, c'était bigleuse.
Ah, c'est vrai qu'elle avait les grosses lunettes. On aurait dit Robin dans Lego Batman.
Oui, c'est vrai. Exactement.
Grosses lunettes. Là.
Bon, moi, j'aime bien poser des questions connes, mais. Enfin, non, vas-y. Je veux dire, la poste. Ils sont pas contrôlés par l'État, ils sont tranquilles. Il y a un mec qui leur commande.
Non, c'est Amazon.
30, ouais, voilà.
Ils sont passés par
35 000 caps et masques, s'il vous plaît. Je voudrais distribuer tout ça.
Et
dans
oui, il trouve
pays.
Tout son argent.
Mais je sais pas, on s'est jamais expliqué de rien.
Encore qu'il pique des œuvres d'art et qu'il récupérait une maison abandonnée. Tu vois, tu peux te dire.
Oui,
ouais,
oui,
mais
voilà.
Du coup, je me dis que. Enfin, s'il a. Parce qu'il dit qu'il récupère le beurre du chancelier. Que les œuvres d'art, il les a piquées, c'est la réserve personnelle du chancelier et tout. Donc on imagine en fait
oui,
qu'il se sert allègrement dans les caisses de tout le monde et que justement c'est le chancelier, la main et tout. Ils sont tellement riches qu'ils se rendent même pas compte qu'on leur pique de l'argent.
Ouais.
Moi, bon. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai justifié.
Ouais, moi, ils
font de l'argent aussi en étant des géants, des magnats de la pharmaceutique.
Ouais,
la description, genre, tu te dis qu'ils doivent être tous multimilliardaires, mais comme on l'a dit au départ, genre on voit leur bureau.
Ouais, tu vois jamais leur.
Le commissaire, il a l'air d'être
apparemment
le commissaire du 15e arrondissement. Quoi.
Crédit,
enfin,
c'est le numéro 2 du gouvernement.
T'as pas l'impression qu'il a
pas,
plus.
Ouais, t'as l'impression que c'est un sbire, enfin une espèce d'agent du FBI, quoi.
Ouais, voilà.
En fait, ils ont tous l'air d'être des agents du FBI, tu te dis pas que c'est des mecs du gouvernement, quoi. Non, mais c'est vrai, enfin, Finch...
C'est un film sur Londres et c'est que des agents du FBI.
Mais c'est trop ça, quoi. C'est troublant.
Donc V a rempli un métro avec de la dynamite pour faire sauter...
Il a creusé à la main pendant 10 ans. C'est marré, ça.
Oui, c'est vrai, pendant 10 ans. Non, pendant 10 ans, il a viré tous les rochers et tout qui avaient bloqué le truc.
Moi, j'ai pensé à Andy Dufresne. Je me suis dit, ah...
Mais
et
ça,
en fait,
je trouve que c'est un.
Sur le métro, il y avait un poster de film et il y a un mec qui achetait un caillou. Il est oh merde, on va creuser le métro!
Ça, c'est un super joli symbole, le côté souterrain, justement. Le côté, en apparence, tout se passe très bien, mais la révolte, elle vient d'en dessous, en fait, de là où vous voyez rien, c'est caché. Et donc, il a creusé le métro, enfin. Mm. D'ailleurs,
bah, même sa
Batman
maison.
Batman vit sous terre.
Bon, il vit pas sous terre.
Ouais,
mais...
pas sous terre ouais.
Ah, Bruce Wayne vit sur
déjà,
terre, mais Batman vit sous terre.
Il est déjà assez cinglé comme ça si en plus il se mettait à vivre sous terre 24h/24.
Non, bah, Batman, on peut pas dire qu'il vit sous terre.
Donc il donne tout à Ivy, donc le choix de tout faire sauter aussi, si elle le veut. Donc en fait, ici, c'est aussi pour ça qu'il l'a. C'est clairement pour ça qu'il l'a formé et qu'il l'a enfermé dans le truc. C'était pour se dire il faut que ce soit quelqu'un comme moi,
faut
qu'il soit
ouais.
capable. D'appuyer sur le bouton, quoi, tout simplement.
Oui, non, surtout, il dit ça en disant si cette personne qui a vécu ça ne le fait pas, ça veut dire que ça valait pas la peine, enfin que la révolution n'a pas lieu d'être, en fait.
Ouais.
Mais bon.
Il faut que le gouvernement t'ait fait vraiment souffrir. Et au final, elle, c'est pas vraiment un syndrome de Stockholm, c'est plus qu'elle se dit ce que j'ai vécu, là, c'est ce que des vrais gens ont vécu. Donc, peu importe que ce soit faux ou vrai, le plus important, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu ça. C'est ça, elle le ressent elle-même. Mmh. S'il lui avait juste lu l'histoire de Valérie, au final, c'est juste une petite histoire, un petit blog, un post sur un blog que tu vois comme ça, une histoire triste. Alors que de le vivre en plus.
Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est peut-être.
Il
n'y
a pas assez de ramifications.
Non, quoi. Ouais. Mais c'est dommage parce que ça, c'est l'idée phare de la BD. Hein, c'est ce côté qu'est-ce que tu fais d'une histoire et comment tu la transmets pour qu'en fait, ça t'habite au-delà de juste te. Tu vois, te divertir ou te faire ressentir quelque chose. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Valérie, elle change la vie des gens parce que c'est à ce moment-là de leur existence, c'est leur c'est la plus belle chose qu'ils vont lire. Enfin, c'est leur seul rayon de soleil, quoi, enfin, je veux dire, tu vois. Et c'est si t'as pas le contexte autour de cette histoire, bon, ça te marque, mais tu l'as oublié demain, quoi.
Ouais, voilà. Ivy embrasse la moustache de V. Et il s'en va. Parce que moi aussi, si on m'embrasse juste sur la moustache, je le prends mal.
Ouais. Mais maintenant, il y a un peu de ninja, quoi.
Et Macready tue le chancelier.
Ouais, c'est tellement. Putain, c'est pareil. Ça
c'est pas expliqué, c'est pas.
Ouais, ça fait très scène. Enfin, c'est tout ce qui pêche dans le film. C'est comme le truc de la télé. Enfin, ce genre de truc, c'est une espèce de raccourci. Bon, là, Macready qui débarque avec le chancelier. Que le mec, il fait exprès d'être dans un écran géant. Enfin, tu te dis, bon. C'est quand même chelou. Enfin, tu vois, c'est chelou, quoi.
Et en plus, il trahivait. On s'y attendait, de toute façon.
Oui.
Donc c'est là que j'ai dit encore, j'ai encore noté, les combats c'est vraiment le point faible du film. Parce que...
Bah là c'est très matrixien. Ouais. Celui-là il est vraiment en mode slow motion.
Non, et en plus c'est du faux slow motion. T'as l'impression que lui il va vite pendant qu'eux ils vont lentement. C'est une sorte de Quicksilver du pauvre.
Ouais, très pauvre.
Ouais.
Ouais, avec du sang un peu abusé, genre c'est un peu gore pour rien. Fin...
Puis on perd Creedy en plus, donc c'est triste parce que c'était quand même. C'est Creedy quoi.
Bah c'est le meilleur perso du.
Bah ouais.
Non.
Et V meurt dans les bras de Eve. Evie. Les Anonymous se réunissent devant Big Ben. Et boum!
Et personne tire dans la foule.
Ouais.
Parce qu'il n'y a plus d'ordre. Donc
Ouais, et puis c'est. En plus.
Bah, c'est des flics anglais, ils sont très disciplinés. Hein.
Mm. Au final, tu te dis pourquoi faire sauter Big Ben? Il a tué tout le gouvernement. il a fait le ménage, là.
Ah oui, c'est bon.
Et en plus, au final, donc. Enfin là.
Bah c'est un symbole.
Ouais, mais c'est en plus. C'est en plus.
Dans un
vraiment,
an, le 5 novembre, je vais le faire sauter.
Mais au final, si elle avait pas fait sauter le truc, le gouvernement n'existe plus. De toute façon, il avait gagné quoi.
Ouais.
Mais c'est comme là les.
C'est plus un tour d'honneur en fait. C'est une sorte de tour d'honneur.
Les gens qui ont démoli des statues en fait, c'est genre tu démolis des symboles.
Parce ouais, que... bien sûr, carrément. Après, Big Ben, il n'est pas marqué raciste dessus.
Non, mais je veux dire,
oui,
c'est
mais
il y a marqué
là, dans
fasciste,
film,
c'est le Parlement. Quoi.
Big Ben représente le gouvernement, donc du coup, c'est montré, voilà.
Mais surtout, ça donne une... Enfin, je veux dire, ça marque un mouvement, c'est-à-dire que... Parce que les mecs meurent, en plus, dans ce genre de truc, ils peuvent toujours faire croire que le mec est vivant pendant quoi un peu de temps... en Algérie, c'est quand même pas mal de temps qu'il se baladait avec une poupée du mec pour continuer à l'agiter comme si c'était président, quoi. Donc, tu te dis, bon...
Eh oh, tu parles pas d'Algérie, ok. Tu restes tranquille.
T'as pas assez de sang,
tu parles pas de Algérie. Tu parles pas de Bouteflika en ma présence, ok. Il a fait beaucoup, ce président.
Pas beaucoup pour le tourisme,
mais...
Non,
pas
beaucoup
grand chose
de mandats.
Hein. Il a vendu du gaz aux Russes.
Ouais, voilà. Mais voilà. Mais
donc le film est fini. Donc est-ce que avec les années qui passent, que reste-t-il de V pour Vendetta?
Le masque de Guy Fawkes.
Ouais, le masque.
Ah,
c'est Anonymous
ouais.
En fait.
C'est vrai que
quelques phrases choc par-ci par-là, celle sur le gouvernement, celle sur le je sais pas là, ça me vient pas comme ça, mais
Non, bah c'est un bon film qui marque les ados quoi.
Ouais.
Du coup, c'est une bonne initiation à côté un peu rébellion révélé, enfin
un peu
révolution.
Comme Fight Club.
Ouais, en moins travaillé quand même.
Ouais, bah oui, c'est passé Fincher, il y a quand même du boulot derrière Fight Club, c'est quand même.
C'est vrai que oui, c'est un éveil à ce discours un peu alternatif.
Voilà, c'est plus c'est une porte d'accès à notre monde de notre société de consommation. Pour Fight Club par exemple, c'est pas aussi bien qu'on le dit.
Ouais.
Bah là c'est pareil.
Le fascisme avec... c'est pas aussi bien qu'on le dit.
Le fascisme, attention. Attention.
Mais
ça a l'air bien comme ça.
Il peut y avoir des côtés alléchants.
Ils sont bien habillés.
Ça marche droit. Mais quand tu penses vraiment sur la question, il y a quand même deux trois trucs pas cool.
Il y a des trucs qui passent pas quoi. C'est limite. Ouais. Hein, c'est limite.
Non mais c'est marrant, ça fait partie de ces films où tu te dis c'est pas un échec, c'est pas un mauvais film, enfin tu vois.
Mais c'est pas une grande réussite non plus.
Ouais, c'est vraiment le petit film des années 2000 qui t'en ferait. J'ai l'impression que t'en ferais plus trop des comme ça.
Ouais, c'est comme Daredevil.
Ouais, un peu. Non, mais ça, non mais j'ai envie de dire un peu, c'est un peu le truc.
Et lui
bon,
il dit oui en plus.
Mais oui, c'est. Non, mais
il disait grosse connerie lui.
Mais
là.
Non, mais
oui.
C'est ce principe du one shot, du truc qui a pas plus d'ambition que ça, tu vois, qui essaye pas de te faire. Enfin, normalement, à l'heure actuelle, t'adaptes V, t'es obligé de faire une fresque, un truc énorme.
Ouais, tu le fais en trois films.
Voilà, enfin, je sais pas, mais en tout cas, t'es obligé de lui
tu
donner.
Tu rentabilises tout de suite.
Tu vois, de lui donner une espèce de matière de dingue où tu fais une mini-série. Fin...
Tu fais trois pour Vendetta. 4 pour Vendetta, en chiffres romains, je précise. Et 5 pour Vendetta.
Ouais, exactement.
Voilà.
Mais là, ça fait bon. Alors, 2 heures, c'est plié. T'as essayé de raconter tout ça, sans trop de moyens, mais ça passe quand même. Enfin bon.
Ouais.
Ça a pas mal vieilli, mais c'est.
Des Wachowski, pas forcément en grande forme.
Ouais, c'est marrant. T'en as pas beaucoup parlé des Wachowski dans
non.
Ce podcast. T'avais pas envie, tu voulais
non.
Dire.
Non.
Je n'ouvrais pas la porte.
Ne lance pas.
N'ouvrais pas la
fais
porte.
Fais pas ça, Zoltan. Non, en fait, je me suis. J'ai pas trouvé.
Matière.
Non, voilà. J'ai les Wachowski, moi je vais t'avouer, ça passe ou ça casse hein, avec moi. Il y a des moments où ça passe pas du tout et d'autres ça va, tu vois. Mais j'attends encore post Matrix un film qui va me faire dire waouh, tu vois, genre de la part des Wachowski. Tu vois,
ah oui, enfin, moi je suis pas du tout client de leur cinéma post
Matrix. Ouais, voilà, tu vois.
Vraiment pas quoi.
Il y en a certains que j'aime bien, Speed Racer c'est sympa. Ouais. Cloud Atlas, c'est pas.
Ouais, faut que je le revoie, mais j'avais pas du tout bité.
Bon, après, il y a l'autre truc avec Channing Tatum qui joue un chien, là, mais.
Un loup,
un chien
ouais,
qui vole.
Loup,
ouais. Ouais.
Jupiter Ascending. Tu sais, avec Mark Hyde. Non, comment il s'appelle ? Andy Reinman qui fait que gueuler, qui était horrible.
Eddie Redman
ouais. Qui fait que crier.
Andy Reinman.
Ouais. C'est moi et les noms. Non, mais c'est vrai que. Bah, j'ai pas. Pas désagréable. Mais...
J'ai eu du mal à le revoir. Là.
Ah oui ?
Juste à me dire, ah, je vais me lancer. D'ailleurs, j'ai voulu me le lancer sur Netflix et c'est que en VF.
En VF ouais,
c'était quoi ce coup de Trafalgar là ? Non, mais...
Je sais pas.
Je savais pas qu'ils faisaient ça sur
ouais,
Netflix.
En plus,
d'habitude, il y a le choix. Quoi.
Ouais, ouais. Bah, il est sur Amazon Prime, c'est là où je l'ai regardé.
Ah, je l'ai téléchargé.
Ouais, ouais, non, il est sur Amazon Prime avec toutes les langues qu'il faut. Mais bon. Sur Netflix,
ça existe encore Adopi, juste pour savoir. Parce que je gueule des trucs. Hey
ouais, je crois que c'est. Mais bon, faut toujours pas le faire, mais voilà.
Non, c'est pas bien.
Alors, faut pas le dire en tout cas.
Tu peux le faire pendant le confinement. C'est autorisé pendant le confinement.
Pour le coup, c'est pas. Je le mettrai pas dans le top des meilleurs films de tout le temps, c'est sûr. Non. Mais je comprends pas pourquoi t'as eu du mal à le revoir, parce que je trouve que ça fait partie genre des bons films pour s'endormir. Tu le regardes tranquille dans
je
ton lit.
Je sais pas. C'était peut-être parce que je l'avais
trouve
trop
un
vu.
Truc cool.
Je l'avais trop vu. Il datait.
Mais vous savez que
j'étais un autre Sofiane quand j'ai regardé ce film.
Ah.
Et le Sofiane que je suis devenu n'a plus envie de voir ce film en fait.
Mais vous savez que sur IMDb,
c'est complètement con ce que je suis en train de dire.
Hyper bien noté. Hein.
Sur IMDb, mais ça m'étonne pas.
Il fait partie des 200 meilleurs films de tous les temps. Enfin, il est.
Quand même.
Il a 8,2. Enfin, je veux dire, il est.
Il est pas dans le tournoi de mon pote Neil, tu vois.
Bah non, parce que justement, c'est très bizarre. Parce que il est. Ouais, je crois qu'il est genre. Je crois qu'il est genre 70e meilleur film de tous les temps.
Putain, ils
ah oui.
Un truc comme ça, quoi. Tu vois, ça rigole pas. Hein. C'est improbable. Enfin, tu le revois maintenant.
Je peux te donner 1000 films qui sont meilleurs et je vais commencer maintenant. Citizen Kane, Le Parrain, Le Parrain 2, Le Parrain 3.
Le pari.
Tu vas te Paris. Retourner et tu vas regarder ta bibliothèque de DVD. Et tu
le
vas...
pari. Ouais. Est-ce que je l'ai d'ailleurs, je me demande.
Mais pour Vendetta ou Le Pari ?
Le pari. Non, pourquoi j'aurais Le Pari ? Ce serait bizarre. Non, j'ai pas V. J'ai dû le vendre.
Mais
je l'avais à une époque, mais je.
Ouais, mais je pense que ça fait partie de ces films.
Ah
qu'on...
si, je l'ai, putain. Je me suis fait chier à le télécharger alors que je l'ai. Il est
là.
Tout en bas à droite. Putain, je suis pas allé voir mes DVD, j'ai même pas cherché.
Toi, t'es vraiment à déchéance du monde moderne.
Ouais, alors, c'est vraiment... bon, quoi. Il fallait que je chante de ma chambre. Non, mais attends, faut pas décoller. Non
plus. Le mec, il l'a regardé sur Netflix, ça marchait pas. Il a téléchargé. Le mec, il a le DVD là, quoi. Et après, c'est sûr qu'on essaie de défendre le support physique, ça fait la merde.
Ça, c'est le plot twist. C'est encore plus gros que le plot twist de V pour Vendetta, tu vois. On a attendu la fin d'épisode pour te dire.
Ouais.
On va passer aux news.
Oh, il y en a quelques-unes.
Il y en a quelques-unes. Il y a un petit Michael Keaton
qui a signé pour peut-être jouer Batman dans
Le Flash.
Dans Le Flash, c'est ça.
Flashpoint.
Ouais. Mais on en parle depuis tellement longtemps de ce film.
Mais c'est vrai. Putain, ça fait 10 ans qu'on y est sur Flashpoint.
Ça devait être 10 minutes.
Il faut arrêter de se foutre de notre gueule au bout d'un moment. Avec
non, par contre, le DC là, aujourd'hui, ils ont annoncé des trucs improbables. Enfin,
aujourd'hui.
Ouais, il y a eu des news. Alors, il y a marqué à prendre avec des pincettes. Je sais qu'ils ont annoncé peut-être
c'est,
un film.
Ce serait trop bien un film qui s'appelle comme ça. Bon, apprendre avec des pincettes, mais apprendre avec des pincettes, c'est vachement bien.
Bah, ils ont annoncé peut-être un film Constantine. Si je dis
encore
pas de conneries, ouais. Ils ont annoncé.
Ça aussi, on en parlera un jour.
Ouais, ils ont annoncé peut-être. Je vais retrouver quelques news, mais ils ont annoncé des trucs assez.
Ah,
troublants.
Tiens, moi, au fait, j'ai trouvé quelqu'un pour nous rejoindre pour le.
Oui.
Pour quand on va parler du DCEU. On avait envie de trouver quelqu'un qui était un peu plus optimiste vis-à-vis de toute cette partie de l'univers DC.
Il faut.
Donc de Man of Steel jusqu'à Justice League ou je ne sais pas. Non, jusqu'à Shazam.
Shazam le dernier. Le Wonder Woman 2, je pense qu'on arrivera.
Ouais, donc Vesper va nous rejoindre. Donc vous connaissez peut-être Vesper.
Il est sur le stream.
Ouais,
les
YouTube,
chroniques de Vesper,
les
ouais,
chroniques. Et si vous écoutez le Sofiane Podcasting Universe, elle était souvent là dans.
Ah oui, carrément.
Ouais, carrément, ouais.
le SPU.
Le SPU. Ah, le SPU. C'est le seul podcasting universe qui n'a pas de Patreon. Je ne sais pas ce que tu fais.
C'est le SPU.
Mais le SPU n'a pas de Patreon.
Mais
c'est
si, j'en ai un de Patreon.
T'as un Patreon, mec?
Ouais.
Bah, c'est, bah dis-le.
Mais je m'en sers pas.
Ah merde, mais t'offres rien. Le mec a pas compris.
Bah non.
Si vous vous abonnez,
je vous offre déjà tout ce que j'ai, c'est-à-dire
des
ma
photos
voix.
De lui.
Oui, mais le principe, c'est que tu regardes un tout petit peu pour gagner des
choses. Juste des photos de moi.
Des photos de moi, ça peut être rigolo, genre des mugs avec ta photo.
Je fais des montages où je suis à côté de célébrités.
Ouais. Je sais que t'adores ça. Ouais. C'est rempli dans ta chambre.
Ça fait longtemps que...
T'as eu ma photo avec Obama. Donc oui, donc Vesper nous rejoindra pour,
ouais, Vesper nous rejoindra et ça c'est
faire
cool.
Superman avant,
et on va peut-être avoir une co-host pour Superman aussi.
Ah,
mais ça je te dirai.
Tu me le diras ouais. En off.
Teasing, teasing.
Seulement pour les gens qui payent le Patreon. Ils sont. Tu vois, je donne tout de suite. Je fais un business plan si tu veux. Mais ouais. Non, il y a quoi comme il y a eu la Snyder Cut. On n'a pas jamais parlé de ça.
On
mais...
a la Snyder Cut qui va débarquer, bébé.
Ça. franchement, au moins on pourra dire bon débarras à la fin. Quoi, vraiment, genre.
On fera un épisode dessus.
Hein. Ah oui, là.
On sera obligé.
Obligé.
Bah oui.
Ah, oui, oui.
On aura déjà fait un épisode sur Justice League version Whedon. Donc on fera forcément... En parlant de Joss Whedon, il y a Ray Fisher, l'acteur qui joue Cyborg, qui n'est pas content du tout contre... Et apparemment, ce n'est pas que lui. Il y a beaucoup de gens qui ont participé sur les films qui ont dit que Joss Whedon était assez odieux comme personne. Et que, donc en gros, il n'y a personne qui l'aime du côté de DC. Et ils sont tous contents de voir Snyder revenir.
Bah oui.
Apparemment, Snyder, c'est lui qui les a choisis. Il a créé le rôle avec Cyborg. Ray Fisher, c'était un acteur de théâtre et Snyder est venu le chercher. Ils ont créé le rôle ensemble. Tout ça pour que Joss Whedon coupe à peu près tout au montage. Donc,
pour le coup, c'était vraiment le personnage le plus sacrifié du.
Ouais, il sert à rien dans le film.
Tu vois.
Ouais.
Ah ouais.
Et donc voilà, on a encore des. On a encore des vagues suite à Justice League, ça continue encore alors qu'il est sorti il y a pas mal de temps maintenant.
Bah, il est sorti en 2018.
Il y a 2018, bien 5 ans
Non, pas 5 ans.
Non, 2 ans.
Ah.
Ouais, 2018 je crois.
On dirait parce que le monde il accélère en ce moment, mais on est tous un peu complètement déboussolés en ce moment. Mais...
Alors je peux vous en dire quelques-unes des rumeurs. Voilà, Warner Bros. Pourrait avoir commencé un développement d'un film Justice League Rebirth.
Okay.
Bon, bah voilà, on verra bien.
Ah, étant donné que c'est vrai que la Justice League est morte.
Oui, on a de la grosse rumeur. Hein, c'est vraiment. La... Bon, et après, c'était en effet un film Constantine et potentiellement un film Zatanna.
Ah, j'avais compris Zlatan.
Ouais. Et ça pourrait faire le lien avec la série Justice League Dark en préparation pour HBO Max.
J'aime bien Zatanna.
Ouais.
C'est un personnage que j'ai toujours bien aimé. Après, c'est peut-être parce qu'elle s'habille d'une manière que j'aime bien.
Je connais pas du tout.
Mais si, elle est habillée genre. En haut de smoking avec des collants, mais en fait c'est juste c'est un peu magicienne quoi. Elle est habillée en magicienne, elle a un long haut de forme et j'ai toujours bien aimé ce personnage qui se pointe souvent dans les comics Batman et qui est la plus grande représentante de la magie dans un peu comme Doctor Strange. C'est le Doctor Strange le.
D'accord. C'est le Ra's al Ghul gentil quoi. Parce que Ra's al Ghul, il est quand même un peu dans la magie aussi.
Ouais, on va dire ça si tu veux.
Bon, j'ai besoin qu'on me dise des trucs simplifiés, moi aussi.
Mais vous n'êtes pas Ra's al Ghul. Ra's al Ghul est mort.
On en a déjà parlé.
La vieille qui dit. Ouais, bref, on en a déjà parlé. Elle a écouté notre épisode sur Batman Begins. Je crois que c'est un de nos épisodes les plus écoutés en plus, donc j'ai pas forcément besoin de faire
de la promo.
Non,
après, en grosse news, je vois pas trop. Hein.
Bah non, je crois qu'on a fait un peu le tour.
Bah, je te dis, c'est la plus grosse, c'est vraiment que la Snyder Cut. Ça, c'est quand même le truc improbable.
Ouais. On en parlera.
Oui, ça va être
Avec les années.
Non, mais j'ai hâte qu'on se lance dans les Superman, parce que j'en connais pas bien. Donc,
mais oui.
J'ai hâte. Mais on fera ça à la rentrée, je pense, non?
Non.
Non, on fera ça bientôt, là?
Bah non, on va le faire.
Bah, yeah, d'accord, ok.
T'es pas là?
Bah, on se calera ça.
Ouais. Bah, non, moi je suis là, donc tous les endroits où je veux aller, ils sont fermés, donc
ouais.
Je veux aller aux États-Unis, c'est pas possible.
Oui, non, là c'est pas le bon moment. Faut passer par le Mexique, apparemment.
Non, mais c'est pas forcément mieux d'aller. Non, j'ai pas forcément envie d'aller en Algérie.
Peut-être qu'on va essayer d'aller à Venise, parce qu'il paraît en ce moment c'est gaulerie. Il y a personne.
Ah ouais. Donc, ça, c'est bien, tant mieux.
Ça peut être le moment rigolo de voir.
Tu peux faire. Genre,
c'est vrai que j'ai envie
tu
d'aller
mettre des roues sur une gondole et refaire la scène, ouais, tu sais, avec Roger Moore. Là.
Ouais. Ouais. Ouais, non, je ferais comme dans Indiana Jones plutôt.
Je m'en souviens plus de ça.
Moi non plus.
Donc, Jessica, merci de nous avoir rejoints pour cet épisode, pour ce V épisode.
Ouais, bah, c'est
merci
vraiment un épisode à part.
Qu'est-ce que tu dis, Valentin ?
Non, j'ai coupé, on va dire. Ouais. Désolé.
Merci de m'avoir accueilli.
Non, je disais que c'était un épisode à part, c'est avec V pour Vendetta, à la base, on
bah ne
pense
ouais,
pas qu'on va en parler. Quoi.
C'est
quand
pas
tu
forcément super-héros.
Ouais.
Mais en fait, en regardant, il a une origin story, il a des super pouvoirs, donc ça rentre, hein, plus que Howard le Canard.
<C'est>
Là, on était vraiment allé, on s'était dit, bon, c'est Marvel, donc on le fait, mais Howard le Canard, qui est notre épisode le moins écouté.
Évidemment, ceci ne m'étonne pas.
Voilà, voilà. À la semaine prochaine, ou je ne sais pas quand. Salut tout le monde.
Salut tout le monde.
Salut tout le monde.